Papa, et non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère. C'est devenu ultra simple, notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme de site web tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canons dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos propres campagnes email. Vous pouvez même vendre vos propres formations en ligne. Donc si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. N'hésitez pas et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline.
Bonjour à tous, je m'appelle Pauline Léniaud. Je suis cofondatrice de la marque de joaillerie Gemio, ça fait 2 jours, et maintenant je suis aussi podcasteuse. Et by night. Je suis ravie de vous accueillir pour ce premier épisode du podcast Crème de la Crème. Mais Crème de la Crème, c'est quoi ? Une conversation où j'invite des hommes et des femmes pour parler de leur réussite, que ce soit dans l'entrepreneuriat, le sport, la gastronomie, la médecine, on va un peu balayer tous les sujets, le blogging, le design, le journalisme. Je brasse vraiment très large parce que l'idée, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes incroyables dans le cadre de mon travail chez Gemio. Et certaines m'ont coaché, ou certaines m'ont donné des conseils, j'en ai même qui ont changé ma vie, sincèrement. Alors mon objectif ici, c'est de partager avec vous les clés de leur succès, parce que je suis convaincue qu'il y a des principes réplicables pour arriver au succès, et que vous pourrez les appliquer à vos propres projets. Alors pour ce premier épisode, il fallait forcément que j'ai quelqu'un d'exceptionnel. Donc j'ai choisi d'inviter une amie proche, qui, pour le coup, est exceptionnelle à tout point de vue, et qui n'accorde en plus que très peu d'interviews. Ma première invitée s'appelle Hélène Le Gastelois. Elle est beaucoup plus connue sous un autre nom, mon blog de filles. Petit récap, en 2005, Hélène fait le choix de mettre un terme à une carrière bien rangée dans le milieu du voyage pour se consacrer à sa passion de la beauté au travers d'un blog, ce fameux blog de filles. Aujourd'hui, mon blog de filles est tout simplement l'un des blogs les plus influents de France. Depuis 10 ans, Hélène éduque et divertit des centaines de milliers de personnes par mois sur YouTube, son blog ou Instagram. Au cours de cet épisode, Hélène a évoqué 3 principes qui m'ont marqué et qui sont au cœur de sa réussite. Principe numéro 1, vivre pour sa passion. Trop de personnes s'imposent des règles ou une discipline juste pour réussir, mais sans se poser réellement la question de ce qu'ils aiment faire. Alors chez Hélène, c'est exactement le contraire. Elle vit pour sa passion et sa passion la fait vivre. Vous verrez dans le podcast, elle en parle très clairement et je trouve que c'est tellement rare que ça vaut la peine d'être noté. Principe numéro 2, la sincérité comme fond de commerce. Hélène est très claire là-dessus aussi. Jamais elle ne publiera un article sur un produit qui ne lui correspond pas. Elle est entière à 100% et ce qui a fait son succès, je pense, elle a fait le choix d'une ligne directrice qui est inscrite sur le long terme. Elle a une exigence qui explique sa longévité et la confiance que lui apportent lecteurs et marques. Principe numéro 3, créer ses propres règles. Alors là, il faut être clair. Hélène a mis son activité professionnelle au service de son amour de la liberté et pas l'inverse. En fait, je dirais que c'est même son exigence de liberté qui l'a presque forcé à inventer son propre métier, à créer ses propres règles, plutôt que de suivre un chemin tout tracé où elle aurait pu continuer pendant 10 ans à travailler dans le milieu du voyage et qui au fond ne lui convenait pas du tout. Bref, vous l'aurez compris, la conversation est juste passionnante. Alors je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la face cachée de Hélène Le Gastelois. Bonjour Hélène.
Salut Pauline.
Bon Hélène, déjà merci 1000 fois d'être là, ça me fait super plaisir. Ça me fait d'autant plus plaisir que je sais que tu as toujours plein de choses à faire. En plus, là, on est le week-end et c'est très gentil de ta part d'avoir accepté de venir me voir. Et je voulais commencer en fait l'interview par faire un peu notre coming out amical, ce qu'on n'a jamais fait.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà, donc je sais pas pourquoi en fait, au final, on n'a pas tellement fait notre coming out amical avant.
Bon, on n'a pas vraiment eu d'occasion, mais ça fait combien de temps maintenant ? Je sais qu'on s'est rencontrés à l'automne précédant votre mariage.
C'est
donc,
ça.
Donc ça fait combien de temps ?
Ça fait bien trop longtemps, puisque ça doit faire, ça fait à peu près 5 ou 6 ans, quoi.
Mais 5 ou 6, c'est pas pareil.
Je ne peux pas te dire, parce que je ne me rappelle pas.
Bravo.
Je ne me rappelle pas de la date de mon mariage. Mais effectivement, on s'est rencontrés dans le cadre de Gemio.
Ouais.
Et sincèrement, l'histoire qui était une histoire professionnelle initialement s'est très, très rapidement transformée en histoire d'amitié.
Ouais.
Et donc, je t'ai invité à mon mariage et on est
absolument
toujours restés proches.
Voilà. Très, très. Ça a été vraiment un coup de cœur amical.
Bah pour moi aussi, vraiment. Pour moi aussi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis particulièrement heureuse de t'avoir aujourd'hui, parce que je voulais commencer dans la confiance et dans la bienveillance, et donc avec une personne que je respecte et que j'admire beaucoup, et qui en plus est une amie. Donc je te remercie une fois de plus d'avoir accepté.
Merci à toi, je suis très flattée. Je ne suis pas sûre de cocher toutes ces cases, mais je suis très flattée.
Bon. Alors maintenant que ça c'est dit, je voulais commencer par un sujet, par quelque chose que j'ai remarqué à ton propos et qui m'a toujours interpellée, qui m'a toujours beaucoup intéressée, c'est que donc t'es une blogueuse beauté, tu parles de beauté, tu parles de soins, tu parles d'énormément de choses dans tes vlogs, dans tes blogs aussi, et t'es quand même très différente quand on te connaît dans la vraie vie que l'image qu'on peut avoir en fait d'une blogueuse beauté. Moi, ça m'a beaucoup interpellée quand je t'ai rencontrée justement pour la première fois. T'es quelqu'un d'extrêmement profond, de quelqu'un de très réfléchi. Qu'est-ce qui fait que t'arrives à faire ce grand écart finalement parfois entre des sujets qui peuvent être un peu superficiels, j'imagine, comme de parler d'une marque, de parler d'un produit de beauté, et sincèrement une profondeur qui est en toi, qui, je te le dis parce que je te connais très bien, qui est indéniable, et je sais que tu t'intéresses à des milliers de choses qui n'ont rien à voir avec la beauté. D'où vient cette curiosité et d'où vient un peu cette espèce de contradiction dans ta personne, quoi?
Je crois que c'est en fait tout simplement que mon blog, c'est mon métier. Donc oui, je suis blogueuse beauté, mais je suis pas que ça, tu vois. Et je crois que beaucoup de gens se font l'image, ont une image très très assez négative des blogueuses beauté, parce qu'on est vraiment celles qui sont considérées comme les plus futiles de toute la blogosphère féminine. C'est-à-dire qu'on parle de rouge à lèvres, donc les gens pensent qu'on n'a pas de cerveau. Je dis pas du tout ça à propos de toi, bien sûr, mais c'est d'une manière générale, on se dit la blogueuse beauté, la fille est débile, elle a pas de cerveau. Alors qu'on peut être passionné par la beauté, mais aussi par plein d'autres trucs, et ça c'est juste la partie émergée de l'iceberg, en fait. C'est juste qu'on voit. Il se trouve que je me suis lancée là-dedans parce que effectivement ça me passionne. Mais ça n'empêche pas tout le reste. Pour moi, c'est pas contradictoire, c'est complémentaire plutôt.
Ouais, non, c'est sûr. En tout cas, je pense que c'est ça aussi, j'imagine, qui fait ton succès d'une certaine manière. C'est que malgré tout, tu as une façon d'aborder les choses qui est assez différente. Et je trouve que tu rentres vraiment dans le fond des sujets. Enfin, je sais pas d'ailleurs s'il y a des sujets que tu traites peut-être plus que d'autres blogueuses beauté, justement, parce que tu trouves que tu as une approche peut-être plus large, ou tu le constates pas particulièrement?
Je parle essentiellement de ce que j'expérimente moi-même, parce que c'est vraiment un blog, c'est pas une webzine. Donc, je parle de choses qui concernent une femme de 47 ans, ce que je suis. Donc, forcément, ça parle à des femmes plus âgées. Il y a aussi ça, c'est que je suis la plus âgée de toutes les blogueuses françaises, de loin. C'est-à-dire que les plus âgées de toutes, elles ont au moins 10 ans de moins que moi. Donc, ça fait forcément une différence.
Ouais, c'est sûr.
Et du coup, j'ai perdu le fil. Quelle était la question? Ça va arriver
grave.
Tout le temps.
T'inquiète pas, il n'y a aucun souci. On en a pour un petit moment, en tout cas. Donc, on reviendra dessus. Et là, en fait, donc on a parlé un petit peu de ton blog, pas encore en détail, mais tu dis que tu parles beaucoup de beauté, et c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a fait tomber dans la beauté, d'une certaine manière? Qu'est-ce qui te passionne dans la beauté? Comment ça t'est venu?
C'est venu. Mon blog, je l'ai créé parce que j'ai travaillé 10 ans dans le tourisme avant. Et je terminais un CDD, donc je pouvais m'arrêter en ayant droit aux ACEDIC, donc sans être à la rue. Donc quand on m'a proposé de renouveler mon contrat, j'ai dit non, merci, salut, je vais aller faire autre chose. En ayant absolument zéro idée de ce que je pouvais bien faire, donc je me suis inscrite à NPE, fait un bilan de compétences, machin, tout ça. Et comme ce sont des trucs qui sont quand même extrêmement chiants, je me suis dit, il va me falloir une petite alternative un peu rigolote aux envois de CV. Et à l'époque, c'était en 2005... C'était la blogosphère féminine a commencé par la cuisine. Donc j'avais plein de copines qui avaient des blogs cuisine. Donc je me suis dit, je pourrais créer un blog pour m'occuper. Et puis je voulais pas du tout créer un blog cuisine parce que ça m'intéressait pas. Mais déjà quand même, j'étais la fille qui arrivait tous les matins au bureau en disant j'ai essayé le nouveau mascara machin, il est trop bien, je sais pas quoi. Donc je me suis dit je vais faire un blog beauté.
D'accord.
Voilà. Et je n'ai jamais arrêté depuis en fait.
Et alors du coup, en réalité, la beauté t'intéressait, mais c'était pas une passion non plus depuis que t'étais petite.
À ce point. Non, d'accord. Non, pas du tout. C'était pas du tout une. Enfin, je me souviens quand même que quand j'avais 7 ans, j'étais abonnée à Strapi, je leur avais écrit pour leur demander comment on fabriquait du vernis à ongles.
Oui,
je m'en souviens.
Il y a des
même.
Signes, il y a des
et
signes.
Et ils m'avaient répondu, écoute, essaye de faire des bougies plutôt, c'est plus facile. Donc, je crois qu'il y avait déjà quelque chose. Ouais, il y avait un truc. Mais je crois que ça m'a pris 35 ans pour m'autoriser à en faire mon travail.
Ouais, c'est ça. Et justement, on parlait de toi quand tu étais petite. Est-ce que tu te rappelles ce que tu voulais faire quand tu étais petite?
Et juste, alors, enfant, je me souviens pas parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs d'enfance. Mais je me souviens que quand j'étais ado et que j'ai dû choisir mon orientation d'études, je voulais être secrétaire générale de l'ONU.
Ah bah écoute.
Voilà, parce que c'était Kofi Annan à l'époque et que je l'admirais beaucoup.
C'est vrai qu'il est assez beau gosse en plus.
Bah ouais, puis il était bien quoi. Donc voilà, je voulais être secrétaire générale de l'ONU, donc j'ai fait une licence de droit pour pouvoir entrer à Sciences Po. Et quand il a fallu commencer à préparer Sciences Po, on m'a dit « il faut lire Le Monde tous les jours ». J'ai dit « ah non, c'est trop chiant, je peux pas ». Donc j'ai tout arrêté, hein, j'ai constaté donc que je n'étais pas faite pour maintenir la paix dans le monde. Et mais que moi en plus je m'en foutais quoi. Donc j'ai fini par faire de l'histoire de l'art parce que c'est un peu relié au droit, tu vois, il y a des gens qui sont commissaires-priseurs, tout ça. Ça m'a saoulée aussi et par chance et par hasard et comme ça, je me suis retrouvée dans le tourisme et j'y suis restée 10 ans.
D'accord. Et qu'est-ce que tu faisais dans le tourisme ?
Je fabriquais des voyages sur mesure pour des groupes, tu vois, une assoce d'amis qui ont envie d'aller visiter les monastères d'Espagne ou je sais pas quoi. J'organisais aussi beaucoup d'excursions pour des croisières.
D'accord. Mais donc, génial quand même, très sympa.
Ouais, j'ai beaucoup aimé ça au début, puis à la fin je tournais en rond quand même.
Tu avais l'occasion de voyager un petit peu du coup
de
aussi.
De temps en temps, mais pas beaucoup. Et voyager pour le boulot, c'est l'horreur. Parce que soit tu es en repérage et c'est très dur, parce que c'est beaucoup de pression. Je me souviens d'un repérage en Amérique latine où je pleurais tous les soirs en appelant mon mec à 3h du matin en France, parce que évidemment le décalage horaire, ouais. Parce que c'était, j'étais complètement perdue quoi. Et sinon tu voyages avec les groupes et alors là juste tu as envie de te suicider hein, parce que tu es leur maman pendant 10 jours, s'il y en a un qui a besoin d'une aspirine à 2h du matin, il vient toquer à ta porte. Donc non, tu préfères ne pas voyager pour le boulot, tu es contente de profiter des avantages qui te permettent de voyager grâce au boulot, mais avantages qui n'existaient plus non plus au bout de 10 ans, donc ça valait plus vraiment le coup.
Mais j'ai la sensation quand même, pour te connaître un petit peu, que le voyage t'est resté.
Oui.
Et que ça reste quelque chose que tu adores faire et que tu, enfin, ouais, on le voit bien sur ton Instagram, tu t'es enthousiaste quand tu parles de voyage, cet amour un peu, voilà, de la nouveauté, c'est aussi, j'imagine, ce qui te plaît dans le blogging, c'est, je sais pas si c'est différent d'ailleurs pour toi, dans le voyage, si t'aimes plus peut-être, la découverte, la nouveauté, ou si c'est en fait plus la liberté, les nouvelles cultures, qu'est-ce qui te plaît là-dedans?
C'est l'évasion avant tout. Le dépaysement. Ouais, le dépaysement, j'adore ça.
Et alors, quels sont les plus beaux voyages, ou peut-être les voyages que tu rêverais de faire, que tu n'as pas encore fait?
Que je rêverais de faire? Ah, il faut absolument que je voie le Grand Canyon. Il faut absolument que j'aille dormir dans le parc de Monument Valley. Alors ça, c'est obligé. Peut-être que je vais y arriver cette année, c'est pas sûr. Mais il faut absolument, ça, c'est en haut de ma bucket list. Sinon, il y a plein d'endroits où j'ai envie de retourner. Mais c'est marrant parce que après avoir travaillé 10 ans dans le tourisme, j'étais complètement dégoûtée des voyages. Et pendant, je sais pas, 6-7 ans, j'ai complètement cessé de voyager. J'allais plus qu'en Bretagne et dans le Périgord ou ce genre de trucs.
C'est sympa aussi.
Et ça m'allait très bien. Et puis, c'est revenu. Là, dernièrement, c'est revenu hyper fort.
Et alors, si on revient un petit peu à la beauté, donc on dit que finalement, tu étais tombée dessus un peu par hasard.
Oui.
Mais je peux pas penser que t'aies fait ça pendant 10 ans sans y trouver vraiment quelque chose qui t'a passionné, parce que sinon je pense que tu te serais lassé quand même d'une certaine manière.
Ah oui.
Et du coup, je sais pas si tu pourrais expliquer ou essayer de réfléchir un petit peu à ça, mais qu'est-ce qui te passionne au final dans la beauté? Est-ce que c'est plus le soin? Est-ce que c'est le fait d'aider les gens, de leur donner des conseils? Qu'est-ce qui te fait vibrer quand finalement tu fais des vidéos, quand tu vas parler comme ça de sujets de beauté, de maquillage, de soins?
Mais c'est, au début, mon blog était plus ouvert comme type de sujet. Il y avait un peu de tout, c'était un peu plus société. Et puis, en fait, assez rapidement, les marques de beauté, comme j'étais je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas de blog beauté en France. Hein. C'était en octobre 2005. Du coup, assez rapidement, les marques beauté se sont intéressées à moi, se sont mis à m'inviter à leur présentation, se sont mis à m'envoyer des produits. Et du coup, ça a renforcé ma passion pour la beauté et ça m'a vraiment aiguillée de façon beaucoup, beaucoup plus précise dans cette direction. Et ça m'a fait me concentrer beaucoup plus là-dessus. Qu'est-ce qui me plaît dans la beauté? D'abord, j'adore ce qui est beau. Donc, tout ça, le cosmétique, le maquillage, c'est une façon, c'est un moyen d'embellir les gens, hein, commencer par moi le matin, qui n'est pas du tout la même tête sans maquillage. Donc,
oui, mais au moins, tu es très honnête dessus, parce qu'on nous voit très souvent démaquillés.
Ah oui, ça m'est complètement égal.
Voilà.
Je m'en fous d'être moche, parce que je sais que je peux être jolie si j'ai les bons produits. Je sais pas qu'est-ce qui me c'est vraiment une passion, parce que ça fait quand même plus de 12 ans que je fais ça et il m'arrive encore, quand je reçois certains envois presse, d'avoir les mains qui tremblent d'excitation en ouvrant le sac. Donc, c'est délirant. Alors que c'est guère plus qu'un nouveau rouge à lèvres, une nouvelle crème, un nouveau vernis. Enfin, personne n'a encore inventé le machin où on claque dans les doigts et on perd 10 ans, quoi. Donc, j'ai beaucoup de mal à expliquer d'où ça peut venir. À part d'un amour général de la beauté, très très fort. Très 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 fort. Un amour de l'esthétique, très très fort. Mais un pot de crème, ça n'a rien... Enfin oui, bien sûr, si on extrapole complètement et qu'on imagine que grâce au pot de crème, on va être plus belle, machin et tout, encore que moi, j'y crois pas trop, enfin, je suis pas tellement à force de pratiquer tout ça, je suis moins la cible du marketing pour ces trucs-là. Mais oui, je ne sais pas, c'est une passion que j'explique assez difficilement, d'autant que dans ma famille, personne ne l'a, au contraire.
Ah oui.
C'est pour ça que je pense, c'est pour ça que ça m'a pris tant de temps. Bah, donc c'est que des intellos, tu penses. Donc moi je suis la futile de service. Bon, cela dit, ils admirent énormément ce que je fais et ils ont beaucoup de respect parce que je suis une self-made woman et donc j'ai beau parler de trucs qui rouge à lèvres, ils savent à peine comment ça s'écrit. Enfin, je parle plus de mes parents. Hein. Ma sœur, elle s'intéresse beaucoup beaucoup plus, mais à la génération au-dessus, ils sont un peu largués. Mais je pense que ouais, j'ai clairement mon parcours. A été du plus sérieux et chiant au plus fun.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, t'as juste un peu appris à t'écouter.
C'est ça.
D'une certaine manière.
Et à m'autoriser.
Mais je pense qu'en plus, c'est hyper fréquent. Enfin, moi, j'ai un peu vécu la même chose de se dire, OK, qu'est-ce qui est attendu de moi? Qu'est-ce que je devrais faire dans
mais
la vie?
C'est ça. Quand t'as des parents hyper intello, ma mère était peintre, mon père était journaliste. Tu vas pas dire, je vais parler. Et je me souviens, quand j'étais ado, le rouge à lèvres, les machins, les trucs, bon, ils regardaient ça un peu avec mépris, quoi. C'était vraiment, c'était de la futilité.
Mais d'une certaine manière, je trouve que c'est un joli pied de nez aussi, justement, que tu aies réussi à en faire un métier qui te passionne,
oui,
qui passionne, bien sûr, qui passionne des centaines de milliers de personnes, on peut le dire,
ouais.
Et avec ta manière bien à toi de le traiter, en plus.
Oui. Ben...
Bon, après, j'imagine que tu ne l'as pas fait pour ça non plus, mais...
mais non, donc, moi tu sais comme je suis, je suis complètement... complètement spontané, je n'ai jamais rien, tout s'est fait par hasard, j'ai eu beaucoup de chance. Bon, ok, j'ai travaillé comme une malade pendant 10-12 ans, mais ça ne m'a pas gênée. Dans la mesure où c'était vraiment une passion totale, je me souviens qu'au début, mais les premières années, mais j'aurais pu publier 4 articles par jour, tellement ça m'intéressait. Du coup, j'ai absolument jamais rien planifié, jamais rien calculé, jamais rien stratégifié, rien, j'ai juste suivi la vague. Et ça a marché. Alors, coup de bol phénoménal.
Bah, coup de bol, mais aussi réelle passion, parce que tu vois, je pense que il y a beaucoup de gens, justement, qui, c'est un des sujets de mon podcast qui est de parler, des facteurs clés de succès, de comment est-ce qu'on fait pour réussir, et je trouve ça hyper intéressant, justement, que tu dises que toi, finalement, c'est arrivé presque un peu par hasard.
Ah, complètement.
Pas totalement non plus, parce que t'étais l'une des premières blogueuses.
Oui.
Enfin, je sais pas si t'estimes que ça fait partie de,
si, bien
de ton
sûr.
Succès,
quand...
mais.
Si, bien sûr.
Que...
Quand t'es le premier quelque part, c'est quelque chose qui reste.
Exactement. Et puis, on peut pas dire que t'as pas de la persévérance, parce que faire non. ça pendant 10 ans, et comme tu le dis, poster plusieurs fois par semaine, mm-hmm. c'est quand même un travail qui est colossal.
Oui, j'ai beaucoup travaillé, c'est vrai. Même si j'avais pas du tout. Maintenant, j'ai l'impression de travailler. À l'époque, je n'avais pas l'impression de travailler du tout, mais pendant des années, je n'ai pas eu l'impression de travailler. Et je ne sais pas, pendant 8 ans, 9 ans, je n'ai pas pris de vacances parce que je n'en avais pas besoin.
Oui, t'avais
c'était
pas
hallucinant.
Envie de prendre des vacances, quoi.
Je n'en avais pas besoin. Aujourd'hui, je suis comme les salariés. Hein. J'attends les prochaines vacances.
On va en parler. Mais ça m'intéresse beaucoup, justement, que tu me parles un petit peu de. De ce côté spontané dans ce que tu fais, parce que beaucoup de gens sont persuadés que pour réussir, une fois de plus, il faut avoir des méthodes. Et moi, je le pense aussi, hein, que ça aide, bien évidemment. Mais toi, est-ce que tu as une espèce de, je sais pas, une routine, par exemple, particulière? Est-ce que tes journées, d'une certaine manière, se ressemblent? Est-ce que, justement, tu aimes bien te créer un cadre pour réussir à poster régulièrement? Comment est-ce que tu t'organises pour poster tes vidéos?
Pour les vidéos, je suis obligée parce que je les poste religieusement le dimanche parce que c'est pour mes lectrices, c'est la religion du dimanche, la vidéo du dimanche, c'est sacré, on peut pas y déroger, etc. Donc si vraiment j'ai pas eu le temps avant, la plupart du temps c'est ce que je fais, hein, je la filme le samedi et voilà, je m'en occupe le samedi. Pour le reste, je suis pas organisée en fait. La plupart du temps, tous les week-ends pratiquement, je travaille. Mais aussi bien en semaine, je peux aller passer 4 heures à faire un truc qui n'a rien à voir. C'est vraiment la liberté totale. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, parce que j'ai un petit peu de mal avec la contrainte d'une manière générale. Hein. Comme je dis toujours, la seule contrainte que je supporte, c'est celle de payer mes impôts. Et même ça, j'ai du mal. Voilà, mais on n'a pas le choix. Mais en fait, j'ai des journées qui se ressemblent un peu parce que j'ai un rythme biologique qui fait que ça se passe de telle ou telle façon. mais je m'organise, j'ai pas des horaires, je me dis pas alors de telle heure je fais ça, de telle heure, non pas du tout, c'est juste il y a un rayon de soleil, miracle, parce qu'on est à Paris en hiver, donc forcément tu as genre une demi-heure hein, pour filmer une vidéo ou faire une photo. Je vois un rayon de soleil, j'en profite pour faire 3-4 photos dont j'ai besoin pour des articles pour mon blog, et puis ensuite je passe à autre chose. En plus, j'ai un taux de concentration qui est extrêmement faible, donc je passe mon temps à sauter d'un truc à l'autre, en plus avec tous les réseaux sociaux, donc je saute d'Instagram à machin, à truc, et je réponds aux commentaires, et je réponds aux mails, et tout, et tout. Mais globalement, ma routine, c'est que quand je suis chez moi, je suis assise devant mon ordinateur, et sinon je suis dehors, en rendez-vous de boulot, type déjeuner presse, présentation de nouveautés, ce genre de choses.
Mais d'une certaine manière, en fait, ce que je trouve hyper original, enfin, on a parlé de liberté, et en fait, t'es un peu le degré absolu de la liberté, finalement, dans ton travail et dans ta vie. Et j'imagine que ta passion pour le voyage, c'est aussi peut-être lié à ça. Mais t'as fait le choix de trouver un métier où tu peux t'organiser exactement de la manière dont tu veux, et même tu pousses le vice d'une certaine manière hyper loin, parce que tu vas même pas te créer finalement de cadre, et tu continues à suivre ton inspiration au fil de l'eau. Et ça, c'est une force, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir plus de méthodes.
Beaucoup de gens me disent, moi je pourrais pas travailler chez moi parce que j'irais me mettre devant la télé, je sais pas quoi. Alors moi, de toute façon, j'ai pas la télé, donc ça risque pas. Mais en revanche, je passe mon temps à regarder des vidéos YouTube. Bah, c'est pas grave. Pendant ce temps, je travaille pas, mais c'est pas grave parce qu'en réalité,
c'est une forme de travail.
C'est une forme de travail. En vrai, parce que je regarde que des youtubeuses qui font la même chose que moi et uniquement des anglophones parce que j'ai toujours le besoin d'évasion. Et du coup, c'est intéressant parce que ça je me nourris un peu de ce qui se fait ailleurs, etc. Mais souvent on m'a demandé est-ce que tu voudrais pas aller travailler dans un espace de coworking ou je sais pas quoi. Non. Je veux être toute seule chez moi et qu'on me foute la paix et faire ce que je veux quand je veux, quoi.
Et justement, travailler chez soi, ça c'est vrai que ça te permet la liberté. Est-ce que quand même au niveau des horaires de vidéos, tu suis quand même, je dirais, le fait que tu fais pas tes vidéos pendant la nuit, enfin, ou est-ce que carrément tu pousses le vice jusqu'à si t'as envie de faire une vidéo à 2h du matin, tu fais ta vidéo à 2h du matin, c'est complètement aléatoire.
J'aimerais bien, mais je peux pas parce que j'ai pas de studio d'enregistrement avec les lumières qui vont avec. Donc comme je fais tout en lumière du jour, je suis tributaire de la météo. Et donc de la météo parisienne, et donc c'est l'épouvante, hein, parce qu'il y a certaines vidéos, il y a une lumière de bocal, et il n'y a pas le choix, parce qu'en plus je ne sais pas faire de montage, enfin je sais couper des morceaux et les mettre côte à côte, mais je sais régler la luminosité et ce genre de trucs, mais c'est tout, donc c'est du super nature quoi.
D'accord.
Donc j'ai pas la liberté à ce point-là, je dépends de la lumière du jour.
Bon, écoute, c'est ça. La météo, quand même, malheureusement, tu peux pas la...
Je dépends énormément de la météo.
Petite contrainte, il y a les impôts, il y a la météo, on le retiendra.
Voilà, c'est ça.
et si tu peux me parler un petit peu de tes outils, donc, parce que tu fais quand même beaucoup de choses. Tu fais de la vidéo, tu écris des posts, tu es aussi beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux. On va parler d'Instagram parce que j'ai la sensation que c'est vraiment aussi un nouvel outil. Enfin, pas si nouveau, hein, tu vas me dire, mais c'est quand même, tu me parlais d'esthétisme tout à l'heure au niveau esthétique. Enfin, je pense qu'on peut difficilement aller plus loin qu'avec Instagram.
Ouais.
Est-ce que tu peux me parler, alors par exemple sur les blogs, en fait, sur ton blog, comment est-ce que tu as commencé? Parce que finalement, tu n'avais aucune notion technique initialement.
Non. J'étais en couple à l'époque et c'est mon ex qui a fabriqué le blog.
D'accord. Il a été sur un site genre WordPress ou un truc comme ça.
Voilà, c'est ça. Et puis j'ai fini par prendre une webmistress parce que c'est quand même, c'est toujours mieux de payer des gens pour faire le boulot.
Bien sûr.
Voilà. Après j'ai commencé avec un ordinateur quoi, et puis voilà, les premières vidéos ont été très 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 compliquées. J'avais une bonne copine qui m'aidait à l'époque, qui était en Belgique en plus, donc elle m'aidait à distance. C'était un enfer. Je me souviens la première qu'on a mise en ligne, enfin que j'ai mise en ligne grâce à elle, parce qu'on n'arrivait pas à convertir les fichiers et tout ça. C'était un enfer total. Je déteste la technologie, c'est-à-dire si le truc ne marche pas au bout de 30 secondes, je le jette par la fenêtre. Donc il y a beaucoup de choses que je ne fais pas aussi à cause de ça.
Je comprends, mais je dois dire que c'est assez courageux de ta part du coup d'avoir tenté la vidéo, parce que c'est quand même pas simple.
Non.
Il faut avoir le bon matériel.
Ah bah oui, puis je l'avais pas à l'époque. Je filmais avec un petit appareil photo compact. Tu regardes les premières vidéos, mais tu hurles de rire. On n'entend rien, l'image est complètement déformée. Mais c'est pareil chez tout le monde.
Ouais,
les
bien
débuts
sûr,
de la vidéo sur YouTube, part. Tout le monde avait des trucs dégueulasses. Donc.
Et alors maintenant, tu utilises quoi par exemple comme matos
Je continue à utiliser des trucs dégueulasses parce que la plupart des youtubeurs filment avec un réflexe, genre un Canon 5D extraordinaire, machin, des lumières professionnelles, enfin, tout le monde fait ça très bien. Moi, je filme avec un Canon Legria, tu vois, parce que je trouve ça très pratique. Parce qu'il y a une télécommande, donc je peux couper, pas couper, machin, que ça fait un autofocus tout seul sans faire. comme ça, comme un réflexe, enfin à part les réflexes à 12 millions de dollars, ils le font pas, mais voilà, que je n'ai aucune envie de m'emmerder à faire des réglages ou quoi que ce soit. Donc oui, évidemment qu'une vidéo filmée avec un réflexe et des lumières et tout ce qu'on veut, c'est beaucoup plus esthétique. Mais j'ai décidé de laisser tomber l'aspect esthétique pour mes vidéos. Tant pis.
D'accord.
C'est très important pour moi, mais je mets mon énergie ailleurs pour ça.
Ouais, bah justement, j'espère qu'un jour il y aura pas mal de gens qui sont soit dans la création d'entreprise, soit des auto-entrepreneurs qui écouteront ce podcast. Et moi-même, j'ai créé mon entreprise, donc je sais qu'il faut savoir se concentrer sur sa valeur ajoutée. Toi, clairement, ta valeur ajoutée, c'est le contenu, c'est ta voix, c'est ce que tu vas dire, tout simplement.
Oui, mon expérience, ma sincérité, ma franchise, mon honnêteté, etc. Et je sais que c'est pour ça que les gens me regardent et ils me disent souvent, on s'en fout complètement que ce soit pas léché. Ce qui compte, c'est qu'on a confiance en toi.
Mais est-ce que tu crois même que ça fait pas partie de ta marque de fabrique ?
Si, je crois bien pour certaines personnes. Je pense qu'il y a des gens que ça saoule, hein, comme toujours, mais il y a plein de mes abonnés qui me disent surtout change pas. Ouais. Surtout ne te mets pas à faire du montage avec des musiques et des trucs comme ça. Non, surtout laisse comme ça, on adore, on a l'impression qu'il est avec nous dans notre salon, quoi.
Non, mais c'est ça qui est génial, c'est que je pense que tu fais partie de ces rares blogueuses où on se dit vraiment que tu as réellement testé les produits. D'ailleurs, j'ai vu en faisant un peu mes recherches que, sincèrement, quand tu fais des coups de gueule et que tu n'aimes pas un produit, tu t'es assez clair dessus et qu'il y a eu parfois aussi d'ailleurs des esclandes, tu vois, sur le web. Enfin bon, les médias sociaux, c'est jamais simple, mais qu'en gros, tu dis les choses telles qu'elles sont et tu as une franchise qui est hors norme. Quand on te connaît personnellement, on sait que c'est vrai.
C'est pas étonnant.
mais ça, pour toi, c'est quelque chose de réfléchi ou c'est juste la personne que t'es?
Ah non, je peux pas être autrement. C'est pas du tout. Non, c'est vraiment. C'est comme dans la vraie vie, tu vois, comme je suis. Je suis hyper cash, hyper droite, hyper. Je suis psychorigide, quoi. Du coup, ça s'exprime partout. Et je peux pas mentir et je peux pas. J'ai une espèce d'éthique de boulot qui est juste une éthique de vie, quoi. Je veux dire, je pourrais pas me regarder dans la glace sinon, je me pose même pas la question, quoi.
D'ailleurs, je peux en attester parce que dans le cadre de Gémio, on est amis quand même. Oui. Et plusieurs fois, tu m'as dit non, je ne parlerai pas de ça parce que ça m'intéresse pas. Et
oui.
Moi, je trouve ça hyper à ton honneur. J'en suis, je trouve ça très, très admirable. Ça fait, comme je te disais, pour moi, partie de ta marque de fabrique. Et je trouve ça drôle de se dire que, voilà, t'as à la fois ce besoin de liberté absolue et comme tu le dis, en même temps, t'as un petit côté psychorigide qui fait que, t'es droit dans tes bottes au moins. Et ça, je pense que c'est ce qui fait que t'aimes autant.
Je dis toujours, mon honnêteté, la confiance de mes lectrices, c'est mon fonds de commerce. C'est si je perds ça, je peux mettre la clé sous la porte tout de suite. Et en plus, d'abord, il y a ça. Et de toute façon, je ne sais pas être autrement. Tu vois, effectivement, comme tu dis, quand tu m'as dit est-ce que tu veux parler de cette collection, je t'ai dit non, je trouve ça moche. Donc c'était un peu cash, mais je suis pareil avec tout le monde, quoi. Les gens qui sont là, est-ce que vous voulez parler de cette nouvelle crème? Je suis désolée, ça pue, je peux pas. Donc, ou alors je dis non, c'est ce type de produit, mes lectrices savent que j'en utilise pas, je vais pas leur mentir. C'est pas possible.
Et alors, est-ce que ça t'a mis parfois dans des situations compliquées ? Enfin, est-ce que t'as des souvenirs de fois où ça a été difficile de dire non ? Parce que ça, c'est quelque chose que toi, tu sais faire. Sincèrement, moi, je te le dis, dire non, c'est pas toujours facile. T'as une capacité assez incroyable à savoir, comme ils disent en anglais, stand your ground, t'es campé sur tes deux jambes, mais tu sais quand il faut que tu fasses quelque chose ou quand tu ne dois pas le faire. Est-ce que tu as réfléchi ? Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment ça devient, quoi ?
Mon problème à moi, c'est de dire oui. Justement. Donc au contraire, pour moi, dire non, moi j'ai dit non toute ma vie, parce qu'on m'a toujours dit que j'avais très très mauvais caractère. Donc pour moi, le réflexe immédiat, c'est toujours de dire non. Donc au contraire, je travaille sur le fait de dire plus oui.
D'accord. Donc, merci d'avoir dit oui à ce podcast alors.
Mais oui, ça me pose des problèmes quand je manque d'argent, parce que je passe ma vie à refuser des opérations monétisées, parce que non, c'est pas possible. Le produit me convient pas, ou j'y crois pas, ça me parle pas, c'est pas ma ligne. Donc, mais au moins, je sais que j'ai rien à me reprocher de ce côté-là, quoi. Ouais. Et ça, c'est hyper important pour moi.
J'imagine. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé quand même, parce que je trouve que cette notion, elle est hyper intéressante et importante de à la fois l'honnêteté et de savoir tenir sa ligne. Très souvent, quand on fait du marketing, quand on crée une marque, ce genre de choses, on se dit, on va avoir des opportunités commerciales, on va avoir des clients qui vous demandent telle ou telle chose, c'est un moyen de gagner de l'argent d'une certaine manière, et savoir garder sa ligne directrice, c'est très souvent quelque chose que les marketeurs vont te recommander. Il y a plein d'ouvrages qui ont été écrits là-dessus. c'est pas facile à faire parce que tu as plein d'opportunités. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as théorisé assez tôt? Est-ce que ça t'est venu naturellement? Comment est-ce que tu es arrivé à cette conclusion qui est hyper mature, sincèrement, et je pense qu'il est très difficile à tenir dans un métier comme le tien parce que tu es sollicité en permanence? Oui, je sais que tu vas me dire que c'est toi, mais
oui,
sincèrement,
je ne sais jamais si tu vas gagner ta vie ce mois-ci ou pas. Donc, ça compte aussi beaucoup. Mm-hmm. Non, j'ai jamais théorisé. Une fois de plus, c'est très spontané. Il m'est arrivé de me poser la question sur certaines propositions et de me dire peut-être, pourquoi pas, et puis de dire à la marque non, je suis désolée, vraiment, c'est pas possible pour telle ou telle raison. Parfois même, le produit était très bien, mais de leur dire que ça collait pas, quoi.
Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé, à contrario, de dire oui en te disant je vais tester pour une fois peut-être quelque chose qui, j'en sais rien, que je vais découvrir au fil du temps et que du coup ça pourra peut-être me plaire, et de le regretter et au final de revenir en arrière et dire à la marque non mais en fait là je vais pas pouvoir le faire, ou au contraire de dire maintenant je suis engagée, je suis obligée de le faire? Parce que ça, j'imagine, c'est douloureux.
Non, parce qu'en fait, quand j'ai un doute, ce qui arrive sur certaines opérations, je demande toujours à tester les produits à l'avance. Quand je dis ouais, je suis pas sûre, ça me parle moyennement ton truc et tout, j'essaye les produits à l'avance, mais pendant au moins un mois, pour je les utilise pour de vrai, quoi, parce que je ne parle que de ce que j'utilise pour de vrai, et je préviens la marque. Je dis si ça me convient pas, je fais pas l'opération. Donc j'ai jamais eu à me forcer à faire une OP parce que j'ai jamais, en général, il s'est avéré que les produits convenaient, et si par hasard ça marchait vraiment pas, j'ai dit je suis désolée. Oui, j'ai quelques souvenirs effectivement de produits que j'ai essayés et j'ai dit je suis navrée, j'aurais adoré le faire, j'aurais adoré le produit, mais non, c'est, ça marche pas, c'est pas possible.
Enfin, en tout cas, une fois de plus là-dessus, moi je suis hyper admirative parce que je peux imaginer que c'est vraiment pas facile dans ton secteur.
Mais pas tant que ça, parce que imagine, mes lectrices, quand je leur dis qu'un truc est bien, elles vont l'acheter.
Ouais.
C'est catastrophique. Enfin, je veux dire, non, c'est pas...
C'est
une responsabilité monstrueuse. Je veux dire, ça coûte cher, la beauté. Moi, quand je vais chez Sephora acheter des trucs, parce que je suis complètement folle, donc je continue à acheter des trucs, je suis là, mais comment font les gens, quoi? C'est horriblement cher, donc je fais hyper attention.
C'est que tu as une responsabilité qui est énorme, mais que je ne pense pas être aussi fréquente que ça, en fait, dans des personnes qui ont parfois le même pouvoir que toi, enfin, d'autres influenceurs, quels qu'ils soient. Je pense effectivement se font rémunérer. Après, sincèrement, je suis pas là pour jeter la pierre.
Pas du
tout. Mais je trouve juste qu'en fait, t'as un positionnement qui est assez unique, que je trouve intéressant.
C'est peut-être l'âge.
Peut-être.
Tu sais, les plus puissantes dans le milieu, elles ont 20 ans de moins que moi, pile. Les filles les plus puissantes de la Terre aujourd'hui sur le web, elles ont entre 27 et 30 ans. C'est les millennials. Moi, si ce qui leur tombe dessus m'était tombé dessus à leur âge, comment j'aurais réagi? Tu vois?
Non, c'est vrai.
J'ai 47 ans. T'imagines,
t'as eu une vie avant.
J'ai eu
deux,
trois vies déjà avant. Donc, forcément, je réagis très, très, très différemment. Quand tu vois des gamines qui ont un succès fou à 17 ans, déjà, elles pètent pas les plombs. Moi, j'admire. Hein. Donc, moi, je suis sûre que l'âge joue énormément. Il y a une maturité. De fait, t'as vécu des trucs que les autres n'ont pas vécu. J'ai travaillé 10 ans en entreprise, donc ça t'apprend quand même des trucs. Je suis sûre que ça joue énormément. Avec aussi le côté très, très, très psychorigide de mon caractère. Ça, c'est...
Qui fait ta qualité. Et alors, justement, si on revient sur la différence entre la vie en entreprise, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Oui.
Et la vie, maintenant que tu es indépendante, est-ce que tu peux m'en parler? J'imagine que pour toi, c'est positif, sinon ça ferait pas 10 ans que tu fais ça. Mais est-ce que tu peux me raconter comment ça a été au début quand tu as commencé à être seule chez toi, comme tu dis? Est-ce que c'était difficile parfois d'être seule chez soi? Au contraire, est-ce que tu as adoré ça? Enfin, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça?
Je me souviens pas très bien, mais j'étais en couple à l'époque.
D'accord.
Donc déjà, mon mec rentrait le soir, il me trouvait devant mon ordinateur en train de m'occuper de mon blog, et ne décollant pas, donc on s'engueulait à cause de ça, parce que j'étais complètement vissée à mon truc. Déjà, ça change un peu les choses. La vie en entreprise, la dernière boîte dans laquelle j'étais, c'était l'horreur, donc forcément, ça aide pas à garder un bon souvenir, mais enfin, je comprends les gens qui ont peur de signer un CDI, quoi. Hein. Pour moi, ça, c'est la prison. Mais le fait de bosser seul, après, j'ai adoré ça pendant très longtemps. Aujourd'hui, je dois dire que de temps en temps, ce qui me manque, c'est le travail d'équipe, tu vois, le plusieurs cerveaux ensemble. Parce que, au bout de 12 ans, des fois, tu manques d'idées, tu manques de punch. C'est forcément pas la même passion qu'au début, quoi. Donc, c'est difficile de maintenir le niveau. Et je vois bien, quand je suis avec des équipes de marques sur certains projets et tout ça, qu'on fait des réunions, par exemple. Le fameux truc que tout le monde déteste.
Tout le monde déteste.
Moi, j'adore les réunions. J'adore ça.
C'est sûr que le fait d'être finalement quand même assez seul dans ta réflexion, c'est à la fois un atout parce que tu fais ce que tu veux, équilibre, et j'imagine que c'est pas si simple.
C'est pesant quand même. Ouais, c'est pesant. Et je vois bien, hein, on le voit bien toutes. Avec mes copines, j'ai des copines blogueuses, quand on se retrouve en voyage ensemble pour des voyages de presse, des choses comme ça, mais on, pendant 4 jours, on se parle non-stop, parce qu'on a tellement de choses à partager. Quoi.
Oui, et puis même des benchmarks, etc., c'est pas si facile d'être seul tout le temps. Quoi.
Non, tout à fait.
Et t'as jamais envisagé d'employer quelqu'un ou d'avoir un collaborateur, je sais pas, un associé peut-être ?
J'y pense un peu en ce moment. J'y pense un peu, sachant que, bon, bah, évidemment, c'est pas du tout facile à mettre en place. Je n'ai pas la place de mettre quelqu'un chez moi parce que le maquillage prend toute la place. Hein, c'est clairement, ce n'est pas moi qui, c'est moi qui habite chez mon maquillage.
Hein. C'est assez joliment dit.
Donc matériellement c'est pas très simple. Après, ouais, je pense que ça me ferait du bien parce que il y a des choses que j'arrive plus complètement à faire toute seule. Où j'ai besoin d'un regard extérieur et d'un regard neuf en fait.
Bah, c'est sûr que ça aussi, la vie en entreprise, le travail en équipe te permet tout simplement d'avoir un feedback.
Ben
quoi.
C'est ça.
Et toi, c'est finalement, tu n'as jamais de feedback parce jamais. Que tu as énormément de feedback, mais après avoir publié. Finalement.
C'est ça.
Donc c'est
et puis, du coup, je n'ai jamais le moyen de chercher des idées nouvelles, des concepts nouveaux, des choses comme ça, parce que bah, je tourne un peu dans ma routine. Quoi. Je suis un peu là, dans ma roue de hamster, à faire mon truc. Et ça me pèse un peu, parce que quand même, comme j'ai une personnalité un peu passionnée, je m'ennuie vite, donc il faut que ça change quand même de temps en temps.
Et alors justement, du coup, t'envisagerais plus quelqu'un pour t'aider sur la partie technique, genre t'aider à prendre des photos, être filmé, ou au contraire, quelqu'un qui serait plus un créatif un peu comme toi, ou tu t'y as réfléchi un petit peu ou pas particulièrement?
Il faudrait quelqu'un pour m'aider sur la partie créative, parce que moi, je me sens pas du tout créative, et tu vois, pour tout ce qui est photos de produits, pour mon blog... photos de moi pour Instagram. Déjà, c'est pas facile, parce que toutes les filles qui ont posté des photos sur Instagram, c'est leur mec qui leur fait leurs photos, ou leur mère, ou leur
le
soeur.
Le fameux Instagram husband.
Voilà, le fameux Instagram husband. Donc, moi, ça va quand je pars en voyage de presse avec des copines blogueuses. Donc, j'en chope une et je lui dis, tu vas me prendre en photo pendant 3 jours. Mais le reste du temps, il n'y a personne pour me prendre en photo. Donc, ça, effectivement, parce qu'il faut mettre des photos de soi sur Instagram, ça fait partie du jeu. Et puis, oui, pour avoir des idées nouvelles sur comment prendre des photos, comment montrer les produits différemment, plutôt que juste poser sur ma table basse avec une branche d'acacia derrière.
Mais alors, c'est plus au niveau esthétique, finalement.
Créatif, ouais.
Créatif.
Ouais.
Et au niveau des contenus, est-ce que...
Des idées de nouveaux contenus seraient les bienvenues aussi. Hein.
Ouais, j'imagine.
C'est
parce
sûr.
Que, malgré tout, moi, je suis une fois de plus très admirative du fait que tu arrives à te renouveler. Et sincèrement, c'est le cas. Et Instagram, par exemple,
moments.
En fait partie. De ce renouvellement aussi, je
pense.
Ouais,
mais Instagram, c'est ma grande passion. Alors ça, c'est Instagram, mais c'est... Non, je pourrais pas vivre sans mon blog, parce que c'est mon bébé, mais je pourrais pas vivre sans Instagram non plus. Et je vois bien, quand je pars en vacances, je ferme mon blog, mais je garde Instagram.
Oui, donc tu fermes ton blog quand même. Tu arrives de temps en temps à faire des coupures.
Quand je pars en vacances, quand je pars plus de 3 jours, ou que je pars vraiment en vacances, par exemple en famille, tu vois, un truc complètement séparé, je préviens, je mets un article en disant, voilà, Je pars en vacances, je reviens dans 15 jours et je ferme les commentaires pour pas que les gens postent dans le vide pendant ce temps et il n'y ait personne qui leur réponde et qu'il n'y en ait pas 800 quand je rentre. Donc ça, j'ai aucun problème à le faire et il faut. Quand je vois toutes ces jeunes femmes que je suis, toutes ces Anglaises qui ne s'arrêtent jamais, quoi qu'il arrive, jamais, jamais, jamais. J'en entendais une récemment qui disait en 4 ans, elle avait pris 4 jours off. Je me disais, mais moi, on me fait ça, mais je finis à l'hôpital psychiatrique, quoi.
C'est le problème avec les réseaux sociaux, malgré tout, le web, c'est que ça ne s'arrête jamais.
Ça ne s'arrête jamais. Mais elles n'arrêtent jamais non plus leur blog. Elles partent où qu'elles soient, elles ont leur ordinateur portable et elles continuent à bosser. Moi, je n'ai pas d'ordinateur portable, c'est pour cette raison.
Mais c'est un choix, finalement.
C'est un choix, ouais,
c'est
un choix.
Pour te garder quand même cette indépendance, finalement, de ton propre travail, quoi, et de ta propre
exactement,
passion.
Pour arriver à couper un peu de temps en temps, sinon tu deviens fou, quoi. Mais alors, avec Instagram, je suis complètement accro, donc là, je viens de passer 3 jours à Marrakech, j'étais le nez sur mon téléphone en permanence, en train de retoucher des photos, programmer des photos, me dire, ah non, celle-ci serait mieux à tel endroit. Je peux passer des heures à programmer mon feed Instagram. J'adore ça, j'ai une passion pour ce truc. J'adore l'organisation des images pour faire un ensemble joli. C'est un truc... Je ne suis pas bonne pour créer de l'esthétique, mais je sais voir, je sais quand c'est réussi, quand ça va ensemble, et j'adore ça.
Toi, tu as un compte Instagram depuis quelle année ?
Mais je ne sais plus, parce que tu sais, il y a eu un moment où il y a eu une grosse rumeur, on a dit Instagram a utilisé nos photos pour faire de la pub sans nous rémunérer. Alors moi, évidemment, hein, toujours très extrême, comme d'habitude, j'ai fermé mon compte.
Ah d'accord, donc tu as réouvert un nouveau
compte. Donc j'ai réouvert un nouveau compte, donc le nouveau, je ne sais pas quel âge il a. Parce que je ne sais pas quel âge a Instagram, plus de 5 ans.
Oui, mais ce n'est pas si vieux, je ne peux pas te dire.
Non, ce n'est pas si vieux.
Je vais le chercher, je le mettrai dans les notes.
Je ne sais pas, mon compte a peut-être 4 ans, un truc comme ça peut-être.
D'accord, et tu dirais que du coup ça a changé, parce que toi qui parlais beaucoup d'esthétisme, avant tu avais l'esthétisme en fait de la beauté de façon générale, mais finalement, que ce soit dans tes vidéos, tu as par essence fait le choix plus de la transparence, de l'honnêteté, donc il y a assez peu d'esthétisme d'une certaine manière. Et dans un blog, c'est beaucoup d'écrit, donc tu n'as pas non plus énormément d'esthétique. Est-ce que ça a changé? Enfin, est-ce que tu penses que l'esthétique, ton amour de l'esthétique est venu plutôt via Instagram? Ou en fait, Instagram a été l'aboutissement, parce que c'était presque ce que tu cherchais, ça a été une révélation?
C'est un endroit où j'arrive à produire un niveau d'esthétique qui me satisfait, alors qu'ailleurs, je reconnais que c'est pas terrible.
Mais parce au moins, que les outils d'Instagram ou les outils que tu utilises sont plus accessibles.
Voilà. C'est très facile de faire une photo bluffante sur Instagram.
Mais alors, dis-moi quels sont tes outils, parce que moi, personnellement, je peux te dire que
mes photos sont moches. Tous les trucs, j'utilise pas les filtres Instagram, mais j'utilise tous les trucs de retouche. Luminosité, chaleur, contraste,
ce machin, tous téléphone. Ces trucs-là.
Ouais.
T'as quoi? T'as un iPhone?
J'ai un 7 Plus.
D'accord.
Donc, je fais tout avec ça. Et puis ensuite, j'utilise Facetune, qui est vachement pratique pour... il y a des gens qui l'utilisent pour se maigrir, parce qu'on peut changer la forme du corps.
Oui, rien n'est vrai sur Instagram, faut aussi
dire ça. Donc moi, je ne fais pas ça, mais je l'utilise pour lisser la peau quand même.
D'accord. Tu vois,
je lisse la peau, et je l'utilise surtout beaucoup pour blanchir les fonds, donner plus de peps à certaines parties de la photo et tout. Enfin, j'adore garder des photos avant-après, parce que mais c'est pas la même chose, quoi. Et donc ça fait rêver les gens. Mais j'ai toujours envie de leur dire, mais il y a 40 retouches, quoi. J'ai passé 3/4 d'heure sur cette photo. Mais moi-même, quand je regarde les Instagram des autres, c'est pareil, ça me fait rêver aussi. Donc, de toute façon, c'est impossible de ne pas s'y laisser prendre.
Oui, tu t'arrives à créer en fait quelque chose de quasiment neuf avec tous ces outils, avec tous ces filtres, à partir d'une idée de base, j'imagine.
Voilà,
quand même.
Je vois ce qui va faire une belle photo sur Instagram.
J'allais te demander, est-ce que quand tu prends ta photo, tu sais déjà quel type de retouche tu vas faire
ou
en fait c'est complètement, ça vient au fil de l'eau?
Ah non, je vois, je retouche quasiment, je pourrais faire mes retouches dans le noir, les yeux fermés, je retouche tout de la même manière, c'est toujours le même traitement en ce moment, hein. Après j'ai des évolutions.
Donc t'as quand même un petit peu de rigueur et de... Enfin alors, rigueur ça je savais, mais de la liberté, mais en fait pas quand même à 200%, parce que là finalement tu t'instaures une forme de règle, quoi.
Oui, mais pour moi justement c'est la liberté d'avoir un feed Instagram que je peux regarder et dont je peux être fière. Tu vois, et je crois qu'aujourd'hui c'est à peu près la seule chose dont je suis fière. Non, je suis très fière d'avoir. Mais je évidemment que je suis fière d'avoir créé mon propre métier et d'en vivre et etc etc. Mais au point de vue esthétique, après il y a des tas de gens qui vont écouter ça, qui vont aller voir mon feed et qui vont dire mais cette fille est folle, tout ça est monstrueux, il y a vraiment pas de quoi être fière. C'est mes choix, chacun voit midi à sa porte. Mais pour moi c'est pas du tout une contrainte. C'est une contrainte quand je me dis il faut que je poste sur Instagram parce que j'ai pas posté, et quand l'hiver à Paris, je pose des photos de autre chose, hein, parce que c'est trop moche, trop déprimant. Mais non, je le vois pas comme une contrainte, non.
Est-ce que tu organises aussi tes photos? Parce que j'ai compris, tu les retouches, tu arrives à avoir une vision tout de suite, en fait, finalement, de la retouche que tu vas avoir. Mais est-ce que au sein de ton feed, tu organises aussi tes photos de telle sorte une évolution, quoi.
Mais bien sûr, je peux avoir 2 semaines d'avance d'organiser.
Ah ouais.
Non, j'exagère. Ça peut aller jusqu'à une semaine.
Tu as quand même un planning Instagram.
Parfois, et parfois pas du tout.
D'accord.
C'est complètement variable. C'est comme pour mon blog. Des fois, j'ai 3 semaines d'articles d'avance. Des fois, j'ai rien du tout. C'est complètement. Ça dépend. Mais si j'ai du contenu d'avance, mais oui, je te dis, je passe des heures devant mon feed à déplacer les photos, à regarder, à être là. Ah oui, non, là, c'est bien. Puis tout d'un coup, je suis là. Ah, parfait, parfait, n'y touchons plus et tout.
Et ça, tu utilises quel outil d'ailleurs pour déplacer sur ton feed?
Ça s'appelle Snug, S-N-U-G. Donc, c'est un truc qui te permet juste de les mettre en scène et de les déplacer. Mais tu as des trucs plus élaborés qui te permettent aussi de programmer et de préparer les légendes à l'avance. Et donc, tu n'as plus qu'à appuyer sur un bouton et bim, c'est publié.
Ça, justement, toi, tu programmes à l'avance ou tu postes vraiment quand t'as envie de poster?
Ça dépend des moments. Tu vois, quand je suis en voyage, je poste au fur et à mesure. C'est assez spontané parce que c'est vraiment au fur et à mesure, parce que j'ai beaucoup de contenu.
Ouais.
Quand j'ai zéro contenu, c'est beaucoup moins spontané. Et là, il m'arrive d'écrire les légendes à l'avance.
mais quand même avec une forme, une fois de plus, de liberté et de spontanéité dans ce que tu fais malgré tout.
Oui, parce que je Instagram, c'est le média le plus important pour les marques aujourd'hui. C'est la seule chose qu'elles regardent quasiment. C'est ce qu'elles regardent en premier. Et elles regardent les chiffres, le nombre d'abonnés, c'est tout. L'engagement, elles s'en foutent, tout ça. Les abonnés achetés, elles s'en foutent. Enfin bref, c'est un gros sujet en ce moment. Et donc, il y a des tas de gens qui, pour arriver à faire grimper les chiffres, se fient à des règles extrêmement strictes de poster à telle heure, poster à tel rythme. Mettre tel ou tel hashtag, il y a des programmateurs de hashtags qui existent, des trucs comme ça. Moi, j'ai absolument rien de tout ça parce que je veux que ça reste un plaisir. Donc, je le fais avec beaucoup de rigueur, mais c'est parce que je veux que le résultat me fasse plaisir à regarder. Mais je dirais presque que je le fais pour moi, quoi.
Ouais, mais en fait, si je résume, enfin, j'ai l'impression que tu as une énorme rigueur et une honnêteté intellectuelle et une franchise qui font que tu disais que tu es psychorigide, il y a une rigueur en fait dans le fait de suivre ta ligne, que ce soit esthétique ou au niveau de ton contenu, de ce que tu dis. Mm-hmm. Mais après, par contre, autour, dans la façon de faire, dans le planning, là, tu veux garder ta liberté.
Ouais, c'est très spontané pour le reste, effectivement.
Donc, je commence à comprendre un peu mieux le personnage d'Hélène Le Gastelot. Et tu dirais qu'Instagram a quand même changé justement ton rapport aux marques depuis que tu as ouvert ton compte ?
Ah oui, tu m'étonnes. De façon pas facile d'ailleurs à certains moments, parce que tu as des marques qui sont là, bah non, en dessous d'un million d'abonnés, ça ne m'intéresse pas. T'es là, ok, salut. Mais bon, elle commence à comprendre maintenant qu'un million d'abonnés, ça ne veut pas forcément dire un engagement énorme, ça ne veut pas forcément dire que ce million correspond à leur cible précise, qu'il faut travailler ça de façon un peu plus pointue que juste regarder le chiffre, quoi. Mais après, j'ai la chance d'être là depuis 12 ans, de connaître tout le monde très bien, d'avoir la confiance de la plupart des marques et de très bien entendre avec la plupart des gens, parce que je suis aussi droite et honnête dans mon travail et dans ma relation avec les gens que pour le reste. Donc, même si j'ai pas encore 100 000 abonnés, et Dieu sait que ça m'énerve et que je regarde les chiffres et je suis là, mais tu vas monter, bon sang. Je sais que c'est pas un obstacle pour certaines marques parce que c'est très rare qu'on me propose de faire que de l'Instagram, justement parce que j'ai pas 3 millions d'abonnés. Et en général, ça vient avec un pack, avec une vidéo, un article, etc.
Et est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui n'y connaît rien à Instagram et qui a envie, je sais pas, de peut-être devenir Instagrammeur ou juste d'ouvrir un compte et d'avoir soit un joli feed, soit juste d'avoir une base d'abonnés qui augmente, mais tout en sans acheter quoi que ce soit?
Alors là, faut que ce soit joli, quoi.
L'esthétique avant tout, quand même. Oui.
Faut que ça fasse rêver. Les gens vont sur Alors, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui vont sur Instagram qui utilisent Instagram comme Facebook, donc ils postent des soirées des photos de soirée avec leurs potes où tout le monde est bourré, je sais pas quoi. Enfin, c'est absolument immonde, ça n'a aucun intérêt. Je suis désolée pour les gens qui écoutent ça et qui postent ça, mais c'est vrai.
Ça m'est arrivé, et d'ailleurs, Hélène.
Oui, je me suis pas privée de te le dire. Voilà.
Ne se prive de rien.
Voilà.
Elle a bien raison.
Dans ce cas-là, je lui mets des émoticônes en forme de chauve-souris pour lui dire que sa photo est moche.
Voilà. Donc, allez sur mon compte Instagram, voilà. Vous verrez qu'il y a beaucoup de chauves-souris.
Quand il y a des chauves-souris, c'est-à-dire que je suis passée par là en disant, ah, c'est pas possible. Il faut que tu enlèves cette photo, elle est moche. Donc, je suis très psychorigide aussi, et j'ai plein d'amis qui sont là, mais pourquoi tu ne me suis pas sur Instagram? Je suis là, je suis désolée, c'est pas assez artistique, je suis hyper embarrassée, parce que moi sur Instagram je ne suis que des photographes écossais qui font des trucs fabuleux, ou des mecs qui font que des photos avec des drones. J'en ai acheté 3 des photos. Ces mecs là vendent leurs
photos. Acheter des photos, ah ouais, oui, parce que c'est des photographes professionnels.
Ouais,
quoi.
C'est des photographes professionnels qui publient sur Instagram, et ces 3 photos sont absolument exceptionnelles, et moi j'adore la photo. Et moi, quand je vais sur Instagram, j'y vais comme si j'entrais dans une galerie d'art photo. Mais il y a des tas de gens qui utilisent ça comme Facebook, donc tu as des photos dégueulasses. Il y a des tas de gens qui utilisent ça parce qu'ils sont fans de Beyoncé ou je ne sais pas quoi, donc ils suivent que des stars. Donc, voilà. Il y a tellement d'usages différents que ça dépend à qui tu veux t'adresser, ça dépend ce que tu veux en faire, ça dépend si tu veux juste le faire pour toi et poster des jolies choses qui te font plaisir. C'est tellement difficile. Je veux dire, les plus gros comptes Instagram... les photos sont dégueulasses.
Ah
oui ? Bah oui, j'ai les comptes de stars, ça n'a aucun intérêt, tu vois.
Ah oui, bien sûr.
Donc, c'est difficile de donner des conseils quand même. À part éviter de complètement se transformer physiquement au point qu'on ne vous reconnaît plus quand on vous croise en vrai. Ça, c'est embêtant.
Tu veux dire au niveau de la retouche ?
Oui.
D'accord.
Ouais.
Oui, j'ai entendu parler de certaines histoires, c'est ça, de blogueuses qui
voilà.
Vraiment étaient à l'aise.
C'est assez rare, mais ça peut arriver quand on est vraiment trop mal à l'aise avec son physique. moi, j'ai la chance de, quand je croise une lectrice, elle me dit, oh, t'es encore plus jolie en vrai qu'en vidéo. C'est très bien, je ne changerai jamais ce caméscope qui doit donner une image pourrie, c'est parfait.
Et j'imagine que du coup, Instagram, ça a pu être quand même une nouvelle source d'inspiration énorme pour toi, parce que là, tu me parles de photos, de photographes écossais. Enfin, finalement, c'est pas du tout uniquement de la beauté, quoi, que tu vas aller regarder sur Instagram.
Ah, je regarde jamais de beauté sur Instagram, ça m'intéresse pas. Et moi-même, j'en poste quasiment jamais. Il m'est arrivé, je suis partie une fois en voyage de blog, et il y avait des blogs très variés, et il y avait notamment des mecs qui faisaient du lifestyle, et qui avaient d'ailleurs des drones et tout et tout. Et ils m'ont dit, mais c'est un blog de quoi? Et je leur ai dit, ben, un blog beauté. Et ils étaient là, bon, on dirait jamais sur ton Instagram, on dirait un blog voyage ou quelque chose ouais. comme ça, quoi.
Et ça t'a jamais titillé, justement, peut-être d'élargir un petit peu la ligne de ton blog, tes vidéos, enfin, ce que tu fais finalement avec Instagram en postant plus de voyages, parce que c'est un peu les deux vies qui se rejoignent, quoi, quand tu fais ça.
Bah, dès que je fais un voyage, je fais un vlog, c'est-à-dire une vidéo qui n'est pas, donc, où on raconte des trucs, où j'essaye de montrer le plus possible de ce que je vois et, mais bon, je fais pas beaucoup de voyages, hein, donc forcément, il y a des blogueuses qui sont constamment en voyage et donc qui ont beaucoup beaucoup de contenu de ce genre à poster. Moi, je voyage assez peu, donc j'en ai moins forcément. Mais c'est vrai que mes lectrices adorent ouais. parce que bah ça les change quoi, tout simplement.
Ouais, c'est l'évasion. Puis
c'est l'évasion, c'est ça, c'est sympa. Puis en plus, moi, j'ai 6 ans et je m'émerveille de tout, donc forcément, ça fait plaisir quoi. C'est toujours sympa à regarder quoi. Quand je suis là, oh mon Dieu, on voit la lune dans le ciel et tout. Alors, bon, bah, ça fait plaisir, oui.
Et alors, on parle beaucoup des réseaux sociaux. Donc, Instagram, on voit que tu as une super relation avec ce média. Est-ce que tu peux me parler un peu des autres réseaux qui n'ont rien à voir? T'as mon blog de filles sur Facebook?
Oui, il y a une page. Je ne sais même pas où elle est ni à quoi elle sert. Si, c'est ça. Je sais à quoi elle sert. Elle sert à relayer automatiquement mes articles. C'est tout.
D'accord. Donc, parce c'est quand même utile pour toi de relayer tes contenus sur Facebook ou t'estimes aujourd'hui que Facebook c'est complètement has-been et que ça.
Ben, moi, je me suis jamais servi de Facebook. J'ai pas de compte personnel. Pour moi, c'est un truc que je comprends pas. J'ai jamais compris ce média, donc je m'en suis jamais servi. J'ai une page pour mon blog parce qu'il faut. Voilà. Mais c'est tout. Il y a aucune activité dessus.
Ok. Et Twitter, en revanche.
Et Twitter, j'ai un compte Twitter, pareil, pour relayer mes articles de mon blog, mes photos sur Instagram. Vaguement dire un truc de temps en temps, mais je m'en sers quasiment pas. C'est le moins sympa des réseaux sociaux.
Ouais. Bah, comme tu sais, moi, il m'est arrivé donc récemment d'avoir un tout petit peu de publicité sur moi.
Tout à fait.
Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose que tu me disais souvent en off, qui était que Twitter, c'était un peu l'endroit des haters. Donc,
c'est l'endroit où les gens sont les plus vaches.
Les gens sont très durs. Et alors, toi, t'es quand même une personne publique. Et comme souvent, les personnes publiques, les gens peuvent t'adorer, mais les gens aussi peuvent être assez durs. Et j'imagine que ça doit être assez dur sur Twitter, où effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites par des personnes. Sincèrement, on se demande un peu pourquoi elles le font. Est-ce que toi, comment tu réagis à ce genre de critiques, qui sont complètement infondées en plus en général, mais est-ce que ça te touche? Est-ce que tu as réussi à mettre en place une espèce de blocage pour pas que ça t'affecte? Enfin, c'est dur. Moi, tu vois, je l'ai vécu, et honnêtement, ça m'a miné.
Oui.
Je me dis que c'est pas si simple, quoi.
Bah, avec le temps, tu t'endurcis. Il y a des années et des années et des années, il m'est arrivé de passer des journées à pleurer devant mon ordinateur à cause de ce genre de truc. Aujourd'hui, je lève un sourcil, je dis connasse et je m'en vais.
Ouais.
Mais je ne réponds jamais.
Tu réponds pas.
Jamais, jamais. En 12 ans, j'ai jamais répondu à ce genre de truc.
Ça sert à rien.
Jamais, parce que l'indifférence, c'est la meilleure arme.
Et ça, tu constates qu'effectivement, c'est sur Twitter que c'est le pire.
Ah oui, les gens sont complètement cinglés sur Twitter. Complètement. C'est l'endroit où ils se lâchent le plus sur des trucs.
Et est-ce qu'il t'est arrivé parfois d'hésiter à poster quelque chose justement parce que tu anticipais d'une certaine manière et que tu avais un peu peur des conséquences sur les réseaux sociaux ou des commentaires peut-être sur ton blog?
À part des photos de moi en maillot de bain, je vois pas. Mais je l'ai fait, j'en ai posté une très récemment où vraiment on voit que je suis pas mince ni rien et j'ai eu que des commentaires hyper positifs et hyper gentils. Donc finalement. Non, parce que je suis pas dans le polémique du tout, tu vois. Donc c'est.
Non, t'es pas dans le polémique, mais je crois avoir lu ou vu sur YouTube, que tu parlais de chirurgie esthétique, que t'es assez open sur le fait que t'en avais fait. Enfin, c'est quand même relativement polémique.
Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui sont là, oui, mais elle est botoxée de la tête aux pieds et tout. Enfin, des trucs, c'est à hurler de rire parce qu'ils n'y connaissent rien du tout. Donc leur ignorance fait qu'ils sortent des trucs énormes. Je m'en fous complètement. Au contraire, je suis ravie d'en parler parce que, d'abord, je trouve ça passionnant. Ça m'intéresse. Alors, dès que je rencontre des gens que ça intéresse aussi, je suis là, c'est pas vrai, vas-y, raconte, qu'est-ce que t'as envie de faire et tout. Complètement surexcitée. Et surtout, j'ai un médecin que je trouve exceptionnel, qui a une éthique et une psychorigidité comme moi en béton armé. Si j'avais une fille, je la lui confierais, c'est dire.
D'accord, qui ne va pas te forcer à faire des choses,
au contraire, il te dit non plus souvent qu'il te dit oui.
D'accord.
Donc, le mec est exceptionnel. Donc, j'en parle parce que je ne veux pas que mes lectrices aillent voir des charlatans. Parce qu'il y a 99,9% de charlatans dans ce métier qui font ça que pour le fric. Et tu leur demandes n'importe quoi, ils sont là. Mais bien sûr, à bout de le fric, je te le fais. Alors que lui, il est là, non, vous n'en avez pas besoin. Donc la fille repart furieuse s'il faut, mais il refuse.
Et d'accord, donc là quand même, face à ce genre de poste, j'imagine que ça peut susciter un petit peu la polémique malgré tout.
Alors sur mon blog, jamais. Mais les gens ont bien compris. De toute façon, je filtre les commentaires sur mon blog. C'est-à-dire que tu ne peux pas poster et que ça apparaisse tout de suite. Je dois l'approuver moi-même. Donc je lis tout. Et je fais oui, oui, non, oui, poubelle,
machin. Tu peux filtrer quand même les commentaires insultants, etc.
Voilà, il y en a très très peu. Il y en a eu, hein, mais les gens se lassent. Hein, quand ils voient au bout d'un moment que de toute façon, ça ne sert à rien, ça ne passera jamais la barrière de la validation, bah, ils finissent par laisser tomber. Donc éventuellement, ça va se déchaîner un peu sur Twitter de temps en temps. Je m'en fous, je laisse pisser, tu vois.
Et tu as pensé parfois à couper ton compte Twitter ?
J'ai dû y penser en me disant, je m'en sers tellement peu, à quoi ça sert ?
Au final, c'est juste pour se faire insulter, sincèrement.
Mais en fait, manière... Non, mais ça fait un relais pour mes articles.
Ouais, quand même.
C'est pour ça que je le garde, en fait. Et puis en plus, quand je fais des opérations avec des marques, ils me demandent des relais tous réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram.
D'accord.
Donc,
Tu dirais aujourd'hui que c'est quoi tes leviers, on va dire, de développement ? Enfin, alors, clairement, j'imagine qu'il y a Instagram, mais pour ton blog, pour continuer en fait à faire connaître mon blog de fille, quels sont selon toi les moyens un peu les plus 2.0, ce qui est le plus à la mode peut-être, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu vois comme des nouvelles tendances pour te faire connaître ?
Ça, c'est la question épouvantable. C'est comme quand on me dit comment tu vois ton avenir. Bah, je ne le vois pas.
Je fais
l'autruche. Je ne veux pas savoir. Ça m'angoisse trop. Non, je sais pas. Tout est plus visuel. Ça y a aucun doute. Les gens lisent de moins en moins. Donc, clairement, l'avenir, c'est la photo et la vidéo.
Bon, bah, ce podcast est mal barré, alors, du coup.
Non, parce qu'ils écoutent. Les gens écoutent. Ils lisent pas. Mais du moment qu'ils n'ont pas besoin de faire un effort de lecture, ça va. Mais non, moi, des fois, je pose la question à des copines blogueuses. C'est pareil, quoi, on ne sait pas. En plus, ça me fait bien rigoler. Ça fait 12 ans que tout le monde dit « Oh, de toute façon, dans 2 ans, les blogs, c'est mort. » Ça fait 12 ans, les gars. Donc, après, il y a toujours des nouveaux trucs. Tu vois, il y a eu Snapchat, il y a InstaStory, très important. Il y a toujours des nouveaux trucs. Je pense que la survie réside dans le fait d'arriver à suivre. Tu vois ? Je vois pour Instagram, je me dis, pour une nana de mon âge, franchement, je m'en sors pas trop mal. Parce que moi, je suis née, il n'y avait même pas de téléphone sans fil, quoi.
Ouais.
Internet est arrivé quand j'avais 25 ans. Donc, si tu veux, je me dis, bon, ça va. Je ne m'en sors pas trop mal au point de vue survie dans les réseaux sociaux. Mais alors, quelle est la prochaine étape ? Mais je ne sais pas ce que vont nous inventer les Zuckerberg et autres.
Mais d'une certaine manière, quand même, je ne dirais pas que tu es du coup précurseur au sens où tu n'as pas créé des nouvelles tendances, encore qu'avec le blog, franchement... Peut-être on peut dire que oui, mais par contre, tu arrives quand même à très très vite, je trouve, identifier les nouvelles tendances et, comme tu dis, les suivre.
Bah ouais, comme toujours, comme je te disais, je suis la vague, toujours.
Ouais, mais t'arrives à voir les belles vagues.
Bah ouais, c'est marrant, hein. Et pourtant, j'ai peur de l'eau.
Et ça, tu sais, tu sais d'où ça te vient, où est-ce que t'as une méthode ? Enfin, comment est-ce que t'as su que les blogs, ça allait être un truc énorme ?
Ah, mais j'ai rien su du tout, j'ai fait ça pour m'amuser.
T'as fait ça pour t'amuser ?
Bah oui, et quand les acédiques se sont arrêtés, j'ai réalisé que je pouvais vivre sans. Donc, c'était une grosse surprise.
Et est-ce qu'Instagram, t'as fait ça pour t'amuser aussi ?
Mais bien sûr, t'aurais vu ce que je postais au début. C'était des photos d'intérieur chez moi. Enfin, c'était pas du tout le même niveau qu'aujourd'hui, quoi.
Mais d'une certaine manière, ce que t'es en train de me dire, c'est que pour réussir dans un domaine et pour suivre la vague, il faut aussi qu'il y ait un vrai besoin, que du coup, tu suives ton instinct. Tu vois, finalement, s'il n'y avait pas eu de besoin sur les blogs, s'il n'y avait pas eu de besoin sur Instagram, t'aurais jamais été amusé par ça, tu l'aurais jamais fait.
Oui. Là, c'est ce que te répondront tous les youtubeurs et tous les blogueurs. Quel est le secret de la réussite ? Faites ce que vous aimez.
Faites ce que vous aimez. Et suivez et votre ligne directrice. À votre manière. C'est ça.
Soyez vous-même et faites ce que vous aimez. Et ça, c'est absolument, absolument. N'essayez jamais de copier qui que ce soit, vous allez vous planter. Et en plus, vous serez frustré. Soyez vous-même et faites ce que vous aimez. Si on fait un truc pour le business, pour je ne sais pas quoi, ça ne marchera pas. Il faut le faire parce qu'on aime ça. Moi, j'ai commencé mon blog parce que j'étais passionnée à la folie. Et les vidéos, pareil. Et Instagram, c'est pareil. Enfin, c'est... Instagram, moi, ça ne me rapporte rien. Hein. Donc, je le fais parce que j'adore ça.
Mais je pense que tu as tout à fait raison et... Et ça se voit, ça se sent. Enfin, quand tu parles, enfin, je sais qu'on en a déjà discuté un petit peu. Tes lectrices t'aiment aussi beaucoup, ou tes lecteurs, ou tes auditeurs, parce que t'as une capacité à t'enthousiasmer pour des choses. Et là, oui, on l'a vu, qui est absolument colossale.
Oui, pour des tout petits trucs même.
Si on revient un petit peu, et t'inquiète pas, je vais pas te prendre encore beaucoup de temps, mais si on revient un petit peu sur le travail que tu fais chez toi par rapport au travail en entreprise. Je trouve ça intéressant de parler aussi de... Bah, en fait, ton cœur de métier, c'est la création de contenu.
Oui.
Mais tu as plein d'autres choses que tu dois faire. Oui. On en a déjà discuté.
Oh là.
On t'a parlé des
tout
impôts,
l'administratif,
etc.
Mon Dieu.
Comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Est-ce que tu peux donner des conseils quand même à toutes les personnes qui sont comme toi, comme moi aussi, qui sont créateurs d'entreprise et qui ont un cœur de métier et qui, au final, se disent comment j'arrive à arbitrer, comment je gère à la fois le reste, qui parfois prend presque plus de temps que ton cœur de métier. Comment tu fais?
Je ne fais pas. Il m'arrive de ne pas ouvrir ma boîte aux lettres pendant 2 semaines, parce que je sais qu'il y a des lettres de l'URSSAF dedans. Voilà. J'ai une phobie administrative, comme la plupart des Français, et qui a bien empiré depuis que je suis indépendante. Et c'est l'enfer, comme pour tout le monde. Je déteste ça. De temps en temps, je arrive à sortir une pile de papier, à m'en occuper, à régler les trucs et tout et tout. Et quand je dois aller voir ma comptable une fois par an pour le bilan de TVA, c'est l'enfer total, parce que je sais qu'il va manquer plein de trucs et tout ça. Et non, ça, c'est mon enfer personnel. Je rêverais d'avoir une assistance de ce côté-là.
Bah, peut-être que c'est la fameuse personne.
Peut-être.
Peut-être que c'est cette
non, mais ça, tous les autres, enfin tous les libéraux te le diront. C'est vraiment, c'est l'horreur, ça, cette partie-là. Tout le monde déteste, quoi.
Mais du coup, quand même, si on arrivait à en tirer quelques enseignements, tu as au moins essayé de trouver des personnes, j'imagine, de confiance avec lesquelles travailler, t'entourer ou comment
J'ai une bonne comptable. D'accord. Après, elle n'est pas très branchée blog et tout ça. Hein, quand je suis arrivée la première année, mon Dieu, avec juste une boîte à chaussures et 3 relevés dedans, j'ai cru qu'elle n'allait pas accepter de me prendre. Or, je savais que j'avais besoin d'elle pour me sauver de la prison, ou quasiment. j'avais pas payé la retraite ni rien du tout depuis 3 ans, parce que ça m'emmerdait, tu vois. Voilà, elle m'a dit, là, va falloir le faire, sinon vous allez aller en prison, hein, y a pas de doute. Donc, elle m'a vraiment sauvé la vie. Donc, j'ai une très bonne comptable, mais c'est tout. C'est tout. J'ai une très bonne webmistress aussi.
Donc, tu arrives quand même sur les compétences que tu n'as pas
Absolument.
Toi à trouver des personnes de confiance.
Voilà, les trucs, je ne sais. De toute façon, la comptable, j'ai pas le choix. Je suis obligée parce que je suis profession libérale, donc là, tu es obligée d'avoir un expert comptable. Et puis, de toute façon, un bilan de TVA, c'est impossible à faire soi-même. Tout ce qui est technique, maintenance du blog et tout, mais plutôt crever que de m'occuper de ça. Donc, il y a une jeune femme que je n'ai jamais rencontrée, figure-toi, qui vit en Suisse. Je sais juste comment elle s'appelle, elle m'envoie ses factures, on s'entend très bien, ça fait des années qu'on bosse ensemble et voilà. Et j'ai une photographe quand il faut faire des photos de look de moi, voilà, ça s'arrête là. Mais je pense que j'ai besoin d'un peu plus de, j'ai besoin d'étoffer
un peu plus de structure, ouais, parce
un
que
peu plus.
J'ai
besoin d'un peu de soutien sur certains trucs.
C'est vrai que c'est assez dur, quoi. Et puis on se rend compte que finalement, parfois, on peut passer, surtout si jamais on fait pas forcément bien les choses à la base, presque plus de temps à réparer les erreurs que à créer de la valeur sur toi faire ce qui t'intéresse.
C'est ça.
Sur ta création de contenu, quoi. Mm-hmm. Donc, il faut quand même essayer de se faire structurer un petit peu. T'as jamais pensé à t'associer avec quelqu'un qui serait un peu plus business? Peut-être, alors, si tu me dis si c'est indiscret, évidemment, tu me réponds pas, mais à l'époque, quand t'avais ton copain, peut-être qu'il pouvait t'aider aussi sur ce genre de choses?
Non, parce que lui était salarié sur complètement autre chose.
Oui, il connaissait rien.
Puis bon, dans la mesure où on n'est pas resté ensemble, heureusement qu'on s'était pas associé.
Ouais, non, clairement.
Donc, je sais pas. Mm-hmm. Je sais pas si je pourrais, tu sais, j'ai tellement l'habitude de tout faire toute seule, en plus que je suis tellement indépendante, j'ai toujours peur quand je fais des choses, que je me mets à mettre en place des choses avec quelqu'un, que ça tourne mal et du coup de perdre cette personne, quoi. Tu vois, du coup, je suis très réticente et j'y vais très, très, très lentement, quoi.
C'est vrai que tu as une pudeur, ce qui est assez incroyable quand même pour quelqu'un d'aussi public que toi. Je trouve que la pudeur fait vraiment partie de tes, alors je sais pas si c'est une qualité, mais de tes caractéristiques, quoi. Et c'est
oui.
Et c'est assez intéressant. Est-ce que ça aussi, alors j'imagine c'est pas choisi, c'est ta personne.
Oui.
Mais est-ce que tu t'entoures de personnes comme ça? Enfin.
Oui, globalement. Et la seule fois où j'ai eu envie de faire un truc qui aurait été impudique et très malvenu, c'est quand l'aîné de mes neveux est né. Et que je suis tombée amoureuse de lui au premier regard, j'ai lutté très fort pour ne pas mettre une photo de lui sur Instagram. Et je me suis juré de ne jamais le faire, parce que de toute façon, ma sœur ne serait pas du tout d'accord. Donc, il n'y a jamais aucune photo de ma famille, jamais, jamais, jamais. Ou alors de très loin, de dos, etc. Mais ce jour-là, j'ai compris, les jeunes mamans qui mettaient leur bébé en photo sur Instagram, parce que moi, c'était juste mon neveu et j'étais là. Mais le monde doit le voir, il est tellement beau. Donc voilà, ça a été ma seule tentation impudique.
Et si on parle justement un petit peu de tes amis et de ta famille, alors d'abord de tes amis, est-ce que tu constates qu'il y a des traits de caractère communs chez les personnes que t'aimes, avec lesquelles t'as envie de t'entourer?
Ah mais complètement, c'est tous des gens atypiques. Déjà, la majorité d'entre eux ne veulent pas d'enfants et n'en ont pas, y compris ceux qui sont mariés. Voilà. Hein, donc ça c'est un truc comme moi, hein, je précise que moi je n'ai jamais voulu d'enfants et que plus les années passent et moins je regrette mon choix. C'est tous des gens atypiques et globalement un peu plus intelligents que la moyenne quand même.
Donc tu dirais en fait que tu cherches des personnes un peu atypiques autour de toi aussi.
Ouais, les gens normaux m'ennuient un peu. Je sais que c'est dégueulasse. Enfin, je sais que c'est le genre de truc qui va m'attirer la haine de la moitié de la France.
C'est la franchise Hélène Le Gastelois.
Voilà, mais non là. Ouais, c'est. Moi, j'ai pas une vie normale entre guillemets, et du coup, j'ai pas grand chose à partager avec les gens qui ont une vie hyper normale. Du coup, ça peut pas vraiment marcher, quoi. Mm-hmm. Il faut qu'on ait des expériences communes et des ressentis communs et des galères communes pour pouvoir devenir amis. Et donc, il faut forcément qu'ils soient un peu atypiques, quoi. Mm-hmm.
Et alors, tu parlais au-delà de l'atypisme, du fait de pas vouloir d'enfant.
Oui.
Si c'est pas indiscret, oui, évidemment, tu peux me dire non si t'as pas envie d'en parler, mais je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. C'est hyper tabou. Je pense qu'il y a des femmes peut-être qui vont écouter ce podcast.
C'est encore tabou?
Sincèrement, c'est encore tabou. Moi, j'ai pas d'enfant. J'ai 34 ans maintenant. Bah, j'ai quand même beaucoup de gens qui me demandent et qui.
Ah, mais oui, mais c'est parce que t'as pas passé les 40.
Probablement.
À 40 ans, on te fout la paix. Mais moi, on m'a fait chier pendant 20 ans. Hein.
Mais justement, alors j'aimerais qu'on en parle un petit peu parce que toi, du coup, t'es assez ouverte là-dessus et tu le dis.
Ah oui, j'en ai parlé sur mon blog et tout.
Alors déjà, quelles sont les réactions? Est-ce que les gens comprennent?
Bah, sur mon blog, les filles étaient hyper soulagées et qu'enfin, quelqu'un ose dire la même ce qu'elles ressentaient parce qu'elles le lisaient nulle part ailleurs. Après, comme je te dis, pendant 20 ans, j'ai entendu les pires conneries que tous les gens qui ne veulent pas d'enfants entendent. Mais c'est égoïste, mais la planète va mourir, mais machin, enfin, voilà, tout ce qu'on entend dans ce cas-là, bon, qu'est-ce que tu veux, voilà, c'est comme ça, c'est un truc, c'est irrépressible, hein, c'est quand même majoritaire, on est programmé pour la perpétuation de l'espèce, donc la majorité des gens
veulent se reproduire.
Voilà, veulent perpétuer l'espèce humaine, et on ne peut pas leur reprocher, c'est génétique, hein. Donc. Mais quand tu passes les 40, quand même, là, on te fout la paix, on se dit la pauvre, elle n'a pas du pouvoir, on va la laisser tranquille.
Ouais, c'est ça. Mais bon, d'un autre côté, tu vois, ce côté, effectivement, je suis d'accord et j'imagine que ça doit arriver, des personnes qui se disent que c'est un non-choix, alors que chez toi, c'est un choix qui est très explicite. Enfin, là aussi, c'est pas très agréable non plus. Et moi, surtout, en fait, je constate quand même qu'il y a un invariant commun un peu dans ton blog, qui est que malgré tout, tu aimes partager et t'aimes, pas éduquer, mais en tout cas être pédagogue sur les choses que tu connais ou que tu as envie de partager.
Ouais, j'aime beaucoup transmettre.
Exactement.
Ouais.
Et du coup, cette transmission, via ton expérience sur la non-maternité, est-ce que c'est quelque chose dont tu me dis que tu en as parlé sur ton blog?
Oui.
Pourquoi est-ce que tu en as parlé? Parce que tu avais envie de faire ton coming out ou est-ce que tu avais envie d'aider des personnes?
Ah non, c'était plus pour aider, j'avais aucun coming out à faire, pour moi c'était un truc, tout le monde le savait, enfin depuis que j'avais 5 ans, je disais ça à mes parents, qui m'ont, Dieu merci, jamais embêté avec ça, c'était un truc dont je trouvais que c'était un sujet féminin, c'est mon blog de filles, bon bah très bien, un sujet qui va parfaitement dedans quoi.
Et quelles ont été les réactions?
Bah comme je te disais, très, très intéressantes et beaucoup, beaucoup de réactions soulagées quoi. Enfin,
et est-ce que tu sens que tu as aidé justement certaines femmes qui peut-être n'osaient pas, n'assumaient pas? Parce que moi, je te dis, j'ai la sensation que ça fait partie des quelques sujets encore tabous pour les femmes, qui d'ailleurs beaucoup se mettent la pression en se disant « bon, bah, il faut que j'ai un métier, il faut que j'ai des enfants, etc. Les deux, c'est très difficile, etc. » Enfin, sincèrement, c'est dur d'être une femme aujourd'hui quand on travaille.
Oui.
Toi, tu as un métier en plus où tu travailles non-stop.
Oui.
Est-ce que tu l'as fait aussi pour donner un peu ton avis, dire bah écoutez, si vous voulez pas avoir d'enfants, c'est possible, c'est pas grave, ça fait pas de vous une mauvaise personne.
Je suis pas sûre. Je crois qu'à l'époque, parce que je l'ai écrit il y a très très longtemps cet article, c'était plus pour dire c'est bon, foutez-moi la paix quoi.
D'accord. Mais donc, tu constates que ça a eu un effet quand même pédagogique.
Voilà. Mais pour ce qui est d'aider les gens, je dirais pas. Enfin, je sais parce que j'ai reçu des mails extrêmement touchants de femmes ou de jeunes femmes qui m'ont dit que mon blog les avait, et mes vidéos les avaient aidées dans des périodes très dures et des trucs comme ça, et vraiment des choses hyper touchantes. Et puis il y a aussi toutes celles qui me disent ben je suis devenue maquilleuse grâce à toi parce que j'ai découvert que j'adorais ça, et ça c'est Ça, ça fait vraiment plaisir, quoi.
Ouais, j'imagine que ça fait partie des meilleurs moments quand tu vois l'impact.
Ah, mais
quand
c'est
même.
Quand tu vois que tu fais du bien aux gens, mais alors ça, c'est miraculeux, quoi.
Tu parles à tes lecteurs, lectrices, beaucoup au travers des réseaux sociaux, au travers de ton blog. Est-ce que de temps en temps, quand même, tu les rencontres en vrai?
Oui, tout à fait. Mais je ne l'ai pas fait depuis très longtemps, parce que ça ne s'est pas présenté, mais je le fais en petit comité, en général, avec le soutien d'une marque qui donne l'espace d'accueil, donc par exemple une boutique, et qui fait un cocktail, etc. Donc, c'est une manière de les rencontrer. Parce que j'ai réalisé, en fait, j'ai commencé à le faire parce que j'ai réalisé que quand je croisais une abonnée dans la rue, et ça arrive très régulièrement, ça me faisait toujours hyper plaisir. Parce qu'elles sont toujours adorables. Et je me suis dit, il faut que j'en rencontre plus. Et du coup, je me suis mise à le faire comme ça, 15-20 personnes maxi.
Parce que juste apprendre à les connaître.
Ouais,
aussi,
c'est ça.
Même si
en réalité, sur une soirée de 3 heures, tu parles 2 minutes avec chaque personne, et donc en fait, je ressors toujours de là hyper frustrée, en ayant l'impression d'avoir pas parlé avec tout le monde et en m'en voulant vachement. Mais bon, je crois que les gens sont contents quand même.
Et alors, il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec toi, si ça te va. C'est aussi au niveau de l'alimentation. Je trouve que c'est assez génial que sur ton blog, tu sois hyper cash sur le fait que toi, tu fais pas de régime, que t'en as rien à faire, qu'il faut faire attention, pas non plus se mettre la pression. Et je trouve que c'est une forme d'éducation qui manque beaucoup. J'imagine que c'est les personnes qui t'écoutent justement aiment ta franchise comme d'habitude là-dessus et aiment le fait que toi tu penses qu'il faut pas tellement de jugement là-dessus, que finalement c'est mieux de manger sainement bien évidemment, mais c'est pas pour autant qu'il faut être en permanence sous le terrorisme d'un régime ou du regard des autres. Et toi, en plus, étant une personne publique, une fois de plus, qui doit poster des photos d'elle parfois en maillot de bain, j'imagine que c'est pas facile. Donc, est-ce que ça t'est venu naturellement? Est-ce que c'est venu un peu par hasard? Comment ça s'est passé?
C'est venu un peu par hasard parce que je me suis mise à faire des vidéos sur l'exemple toujours des anglophones qui s'appelle What I Eat in a Day. Donc, c'est qu'est-ce que je mange dans une journée? Donc, je montre ce que je mange, sachant que les gens qui font ces vidéos-là sont généralement des gens qui s'alimentent très sainement, qui ont donc un acai bowl le matin, une salade de quinoa à midi, ce genre de trucs. Et moi, le matin, j'ai des chips et du tarama, parce que j'ai plus rien d'autre dans mon frigo, ou des tartines à l'avocat. Je montre ce que je mange pour de vrai, quoi. Et alors ça, les gens adorent, parce qu'ils sont là, mon Dieu, ça fait du bien de ne pas avoir des acai bowls, j'en peux plus et tout.
Parfaitement instagrammé, où tout est magnifique.
C'est ça, donc moi j'ai
d'habitude
totalement renoncé à instagrammer de la bouffe, parce que mes photos sont toujours ignobles, donc voilà. Mais moi je suis, pour plein de raisons, complètement contre tout ce qui est régime et trucs comme ça, et voilà, donc... Je prônerai jamais ça sur mon blog, puis de toute façon, c'est là, si on est dans... S'il s'agit de le prôner ou pas, on est dans un niveau médical qui ne me regarde pas du tout.
Bon, écoute Hélène, en tout cas, je...
On a fait le tour,
On n'a pas fait le tour, non, j'ai encore plein de questions. T'es encore prête à le faire?
Bien sûr.
Dans ce cas, continuons. J'ai une autre question pour toi qui n'a rien à voir, mais qui est sur tes lectures. Finalement, tu passes ta journée à écrire.
Plus ou moins, malgré tout.
Est-ce que tu peux me parler un petit peu des livres qui t'ont marqué, peut-être des livres que tu as le plus offert aussi à des personnes autour de toi?
Alors, écoute, c'est pas compliqué. Depuis que j'ai un iPad, je ne lis plus. Donc, ça fait à peu près 3 ans que je ne lis plus. C'est catastrophique. Alors, je lisais avant 4 bouquins par semaine. Parce que je lisais dans mon lit avant de dormir. Et maintenant, je regarde des documentaires sur Arte. Donc voilà, c'est foutu. Sachant que j'offre pas tellement de livres et que je ne lis... quand je lis, quand même, j'arrive à me forcer à lire en vacances. Heureusement,
tu lis quand même déjà toute la journée sur des blogs, tu regardes des vidéos. C'est peu la lecture,
en fait. C'est très peu de lecture. Je lis quasiment. Non, je lis plus. C'est catastrophique. Catastrophique. C'est les écrans pour ça. C'est hyper dangereux. Mais quand je lis, je ne lis que de la littérature fantastique anglophone en français parce que je suis pas bonne en anglais au point de pouvoir lire dans le texte. Donc voilà, c'est assez réduit, quoi.
Tu m'as parlé un peu des reportages là sur Arte, documentaires plutôt, j'imagine. C'est quel type de documentaire que tu regardes?
Par exemple, les mecs qui vivent en Mongolie et qui élèvent des chameaux et qui vivent dans des yourtes. Alors ça, j'adore, mais tu peux pas savoir. Ou alors les routes de glace, tu sais, les rivières qui sont gelées pendant l'hiver au Canada ou dans le Grand Nord russe et dont on fait des routes qui permettent d'atteindre certains villages qui sont accessibles qu'en avion le reste de l'année. À ce genre de truc, moi, j'adore ça.
Non, mais c'est magique.
C'est l'évasion, comme d'habitude.
C'est l'évasion. Et alors, pour s'évader de tout ce qui est un peu web 2.0, ordinateur, etc., parce que tu passes quand même ta journée devant un ordinateur ou devant ton téléphone quand tu n'es pas devant ton ordinateur.
Oui, ça craint.
Comment tu fais pour justement shut down un peu et, je sais pas, juste ne serait-ce que ne pas avoir mal à la tête? Enfin, moi-même, je travaille et je suis devant un ordinateur toute la journée. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Est-ce que tu as des techniques pour réussir justement à ne pas avoir mal au crâne? Parce qu'au contraire, tu as plein de migraines.
Alors, les écrans me donnent pas de migraines. Il se trouve que je suis migraineuse, mais ça vient pas des écrans. Non, je n'ai rien pour shut down et je ne shut pas down et c'est un problème.
D'accord. Et pour traiter les migraines, en revanche, t'as des choses que tu fais ou il y a rien qui marche?
Je prends des médicaments spéciaux qui abattraient un cheval et voilà.
Bon, ça finit par marcher, quoi. D'accord. Ouais.
Non, je lâche jamais. Comme je te dis, même en vacances, je garde Instagram, donc forcément, il y a un écran.
Et ça, t'as pas envie. Alors, j'ai compris que c'était ta passion, mais justement, tu t'es pas demandé, est-ce que je vais, pour mes prochaines vacances, peut-être couper même Instagram pour être vraiment complètement off?
Pour être vraiment surtout dans l'émotion, au lieu d'être dans l'émotion à travers le viseur de ta caméra. Parce que tu la vis beaucoup moins, c'est sûr.
Et puis d'être moins dans l'instant présent, c'est ça?
Bien sûr, tu vis pas les choses quand t'es derrière un viseur, hein, c'est sûr. Je crois pas que j'y arriverai. Mais c'est dommage. Parce que, bien entendu, on vit pas les choses. On vit les choses de façon atténuée. Tu vois, ça met un filtre devant. Mais de toute façon, j'ai mon iPhone avec moi. Je regarde mes mails tous les jours pour voir ce qui se passe. Enfin, tu vois, personne peut le faire à ma place. Donc, de toute façon, je garde le truc allumé, quoi. C'est inévitable. C'est normal. Quand t'es chef d'entreprise et que t'es le seul chef d'entreprise de l'entreprise et qu'il n'y en a pas d'autre, c'est toi qui fais le boulot, quoi.
Bien sûr. C'est sûr que toi, tu sais très bien que dès que t'es off, en gros,
personne d'autre ne fera le boulot.
Personne d'autre ne le fera. Ouais, tout à fait. On a parlé très, très brièvement de ta famille et notamment de ton petit-neveu et ta sœur. L'idée, c'est pas de parler de choses qui nous concernent pas, mais j'ai remarqué que t'avais toujours eu énormément d'affection pour ta famille. Est-ce que tu peux juste en deux mots me parler un tout petit peu justement de ton enfance, mais peut-être très rapidement, et de ta relation avec ta sœur, notamment, j'ai l'impression qu'il est hyper fusionnel. Est-ce que tu peux me parler de ça?
Alors, mon enfant, je me souviens pas très bien. Les psys diront que je suis complètement refoulée, hein, parce que je n'ai pas de souvenirs d'enfance. Ça commence à 13 ans, tu vois, hein, voilà. En fait, quand je dis, tout le monde croit qu'on n'est que deux enfants, parce que je parle toujours de ma sœur. En fait, on est quatre.
D'accord. Tu vois, mais moi, je ne savais pas.
Même toi, tu savais pas, tu vois, depuis tout ce temps. On est trois filles et un garçon. Mais ma sœur, celle dont je parle tout le temps et qui a 3 ans de moins que moi, c'est celle dont je suis vraiment donc la mère de mes neveux. C'est celle dont je suis la plus proche et il y a eu des moments où c'était comme si on était jumelles quasiment. Quoi.
Et c'est important pour toi d'avoir une personne comme ça à la vie, à la mort, avec qui tu peux tout partager et qui vraiment est c'est ta sœur, donc évidemment c'est une partie de toi, mais je veux dire qui est tellement importante dans ta vie que tu vas pouvoir tout lui dire. C'est pas quelque chose qu'on a toujours, enfin
oui, j'ai beaucoup de chance, donc on a beaucoup de chance d'avoir cette relation. Parce que il y a des autres fratries qui s'entendent pas, et puis moi je vois bien dans ma fratrie à moi, il y a qu'avec elle que j'ai une relation pareille, oui, c'est très important. Mais j'arrive à avoir ce niveau d'intimité et de confiance et d'amour avec certains de mes amis aussi. Parce que, justement, ma famille n'est pas toute rose. Et donc, mes amis, c'est ma famille choisie.
Tu parlais de personnes un peu atypiques. Mais est-ce qu'il y a des, indépendamment de ça, des choses que tu admires chez les gens, que tu as envie de voir chez eux, des traits de caractère, en fait, indépendamment du côté atypique que tu reconnais chez tes amis, ou même, à la rigueur, si tu les connais pas, mais qui t'interpellent chez des gens et que tu aurais presque envie d'avoir comme des amis?
Alors, il y a des choses que j'admire, mais qui provoquent pas pour moi l'envie d'être amie avec les gens. Mais ce que j'admire avant tout, c'est la capacité de travail. Les gens qui bossent comme des fous. Parce que moi, je suis hyper flemmarde.
T'as pas l'air, tu travailles 24 heures sur 24 et tu prends jamais de vacances.
Oui, mais pas intensément, tu vois. Mais quand je vois ces Anglaises de 27 ans qui ne s'arrêtent jamais et qui produisent des contenus d'une qualité de malade mentale, je suis soufflée, quoi. Donc ça, les gros bosseurs, je crois que c'est ça qui m'impressionne le plus.
Je te remercie en tout cas mille fois d'avoir accepté de faire cette interview. En plus, tu sais que c'était ma première interview.
Je sais. Je suis tellement fière d'être la première. J'espère que tu vas réussir à la mettre en ligne, parce que c'est pas sûr.
C'est pas sûr. Je suis pas très technique non plus. Si jamais des personnes, j'imagine que c'est très simple de le faire, mais des personnes qui écoutent ce podcast ont envie de te retrouver.
Oui.
Quel est le meilleur moyen de te trouver?
Tu tapes mon blog de filles dans Google et c'est bon. Il y a tout qui sort.
C'est ça. Et toi, tu conseillerais aux personnes qui veulent te suivre de regarder tes vidéos?
Ouais, commencer par mon blog éventuellement, quoi.
D'accord.
D'aller sur mon blog, ou de toute façon mes vidéos sont reliées, ou sinon sur YouTube. Mais sur mon blog, t'as tout. C'est la plateforme centrale où tout est relayé.
D'accord. Donc même si on veut avoir ton compte Insta ou ton compte tout, Twitter, pour,
voilà, tout est indiqué sur mon
blog. Te dire pour une
blog.
Fois des mots gentils sur Twitter, on peut le faire.
Voilà. Non, tout est linké sur mon blog. De
ça
toute
marche.
Façon.
Bon, moi en tout cas, je mettrai ça dans mes notes. C'était un grand plaisir de t'avoir avec moi. Je te remercie mille fois, Hélène, d'avoir pris ce temps.
Merci à toi, Pauline.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Alors, avant de vous quitter, quelques points en plus. Premièrement, si vous souhaitez avoir le lien vers le blog d'Hélène, les notes de cet épisode, c'est simple, allez directement sur www.podcast-du6-crème-de-la-crème.com. Donc c'est podcast-du6, crème de la crème, tout attaché, aucun accent, quoi que ce soit, .com. Rubrique podcast, forcément. Vous verrez, je vous ai fait un petit résumé de l'épisode avec les grands points à retenir, le contact d'Hélène, les notes sur l'épisode, tout un tas de trucs très sympas. Deuxièmement, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, franchement, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire directement sur Twitter ou Instagram. Mon pseudonyme, c'est Pelaigneau, donc c'est @PLAIGNEAU. Vraiment, je suis preneuse de tout au feedback, donc franchement, vous gênez pas du tout. Et enfin, un petit moment publicité, désolé, mais si l'épisode vous a plu, le meilleur moyen de le faire savoir, c'est de le partager, bien sûr, et surtout, surtout, de laisser des avis sur iTunes. Je sais, c'est pas sympa à faire, mais ça prend 2 minutes, et ça fera une grosse différence, donc franchement, vous gênez pas. Merci à tous, et je vous dis à dimanche en 2 pour un nouvel épisode de Crème de la Crème. À très bientôt !